Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numéro 1.
This is Europe number 1.
Il fera jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidables. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidables.
Salut les copains.
Une émission de Daniel
Philippe. Alors ne tirez pas.
Du cœur au boulot, wow, wow, Mélodie Parade, Gérard Klein.
Troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique.
Europe 1, découverte.
We copy you down, Eagle. You're looking good here.
Voici donc Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile de Sieur.
Pulpeux comme la pêche.
Marc Tronchot.
Bonjour et bienvenue à tous à cette adresse qui est un peu votre maison, 26 bis de la rue François 1er à Paris. Émission un peu particulière aujourd'hui, vous vous en rendez compte. Les enfants d'Europe 1 se sont réveillés plus tôt et nous aurons le grand plaisir avec mes invités d'être ensemble avec vous une heure de plus jusqu'à 11h. Émission un peu particulière également compte tenu de la date, le dernier jour de l'année, à J moins quelques heures du réveillon. Autant vous dire qu'avec toute l'équipe, nous avons décidé de faire un peu les fous et de vous mettre de bonne humeur de l'autre côté du poste, de l'ordinateur ou de l'autoradio. À ce sujet, il n'est sans doute pas inutile de recommander aux personnes qui sont au volant de faire attention. Les fous rires ne sont pas annoncés par des panneaux de circulation comme le sont les dodanes, les passages à niveau et les sens uniques. Donc, prudence. Ce préalable fait, voici le programme en quelques mots, des sketchs, des canulars, de la rigolade, le tout plus ou moins improvisé et signé tant par les journalistes de la maison que par les humoristes qui se sont succédés sur l'antenne depuis sa création. Pour ajouter encore un peu de bonne humeur à tout cela, je serai accompagné par les frères Marcelin. Ils ne font pas de numéro de cirque, mais ils ont tous deux travaillé à Europe numéro 1 et Europe 1. Alexandre, plutôt au programme côté réalisation. Robert, à la rédaction côté information. Ils n'ont jamais engendré la mélancolie. Également autour de moi, Xavier Collin, ex-grand reporter de la maison, aujourd'hui passé en Suisse, à la télévision suisse romande 100 ans. Et Edmond Zucchelli, journaliste d'Europe 1, venu d'Arles, devenu écrivain à Marseille, rien que des amis. Bonjour messieurs, la gaieté est au rendez-vous. Ravi de vous accueillir.
Bonjour.
Quelque chose à ajouter pour votre défense, Alexandre, Robert, la rigolade, c'est un peu votre esprit de famille.
Oui, surtout qu'à Alexandre. L'époque, dans les années 70, quand on est rentré ici, ce qu'on savait pas, c'est qu'on était payé pour se rendre la gueule, surtout.
Ouais, et Robert?
Bah, c'est-à-dire qu'on était obligé de travailler un petit peu, même beaucoup, d'ailleurs, ça nous plaisait énormément, mais il arrivait régulièrement, effectivement, que l'antenne dégénère.
Xavier?
Eh ben, moi, je dirais qu'il y avait toujours ce côté de crédibilité sur les journalistes d'Europe 1, mais en même temps, parallèlement, et presque pour être complémentaire, il y avait toujours ce côté, j'allais dire, de grande rigolade à l'intérieur de la maison. Et au fond, Europe 1 était connu pour ça dans le milieu journalistique.
Le plus jeune arrivé, Edmond.
Et ça démarrait très tôt dans la journée, parce que Robert s'en souvient certainement. À 9h du matin, c'était la conférence de rédaction du matin. Robert a un talent, c'est qu'il est capable, avec un crayon et une feuille de papier, de vous croquer une personne, deux personnes, une situation, ouais, un dialogue, et de faire éclater de rire, voilà. Et puis, bon, c'était un mélange de gravité, et puis parfois d'éclat de rire, et donc déjà même avant qu'on soit présent.
Mais Marc, ce qui est important à mon avis dans cette émission, c'est qu'il va falloir expliquer aux auditeurs d'Europe 1 ce qui se passait dans les coulisses.
Ah oui.
Parce que j'imagine qu'on va entendre pas mal de choses, de gens qui rient, qui dérapent, qui se font de la gueule, qui disent...
À chaque fois qu'il y aura besoin d'une explication, on la donnera.
Il faut expliquer, parce que c'est le spectacle était aussi côté coulisses ici. Et ce spectacle-là, les gens ne peuvent pas imaginer dans quelle tenue, on le racontera tout à l'heure, un certain nombre de journalistes faisaient certaines émissions, et ce qui se passait... Que à l'époque,
petit.
C'était totalement inavouable à l'époque. Maintenant, ça a changé de direction. On peut tout raconter. Il s'est passé
Est-ce
quand même.
Est-ce qu'il y a prescription d'ailleurs? On a le droit de donner des noms.
Robert,
est-ce que le délai de 20 ans est passé?
Patrice Louis a fait des journaux. À moitié nu, non?
Non, totalement nu.
Le skill était dépouillé et le journaliste aussi.
Par quoi on commence? Un grand classique. Je parlais de circulation tout à l'heure et la circulation se faisait en direct de Rosny-sous-Bois. De temps en temps, le journaliste pensait qu'il n'était pas à l'antenne alors même qu'il y était et cela donne ça.
Pierre Laforêt à Rosny-sous-Bois.
Oui, allô?
Pierre?
Oui.
Oui.
Hein?
Je vous entends très bien.
Oui, tu m'entends?
Très bien, Pierre.
Oui.
Alors allons-y.
Alors attends une petite seconde, hein.
D'accord, j'attends.
Attends.
Il y a tellement d'embouteillages, Pierre.
Hein?
Il y a tellement d'embouteillages.
Il y en a un peu partout. Hein?
Dans vos papiers aussi, je suppose.
Hein?
Dans vos papiers aussi.
Ah oui. Attends. C'est Sam, hein.
Oui, c'est Sam.
Bon, bon, bah,
Sam,
vous avez une voix tellement jeune.
Ah mais oui, bah, j'ai que 12 ans et demi. Hein.
Ah oui, c'est ça. Bon, alors, parce que j'ai un gros bordel ici, tandis que mon transistor n'a plus de pile parce que les gendarmes l'empruntent la nuit.
Ah bon. Bon bah Pierre, on vous retrouve tout à l'heure.
Alors voilà, Sam Bernet et Pierre Laforêt.
Hein? On disait des transistors. Non,
toi, t'as fait Ronnie Sous-Bois.
Ronnie Sous-Bois, à terre et dans les airs. Et le seul problème de Ronnie Sous-Bois, c'est que survoler la région parisienne, une heure, ça va, deux heures, ça va. Au-delà de 5 ou 6 heures, c'est très très long, surtout pour voir toujours les mêmes bouchons. Et c'était l'une des obligations des jeunes reporters d'Europe 1, c'était de survoler la région parisienne.
Et les gendarmes, ils piquaient les ah, transistors,
oui.
Comme ça,
oui. Bah, ils écoutaient la nuit, bien sûr.
Oui.
Bien sûr, bien sûr. Ronnie Sous-Bois, c'est donc une institution.
Et on sent que Sam Bernet, il est tout à fait content, il est gourmand de ce qu'il est en train de faire.
Il est ravi, d'abord. En plus, c'est un jeune animateur à l'époque, il débute, Sam. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Europe, pour qu'on ait Ronnie Sous-Bois en direct, c'est pas aussi simple qu'aujourd'hui, il y a du numérique, c'est relativement simple.
On a les cartes sur ordinateur.
À l'époque, il y avait à Europe, je ne sais pas si ça existe toujours, ce qu'on appelait à l'époque un CDM,
qui voulait dire
centre de modulation. Centre de modulation, ouais. Sauf qu'à l'époque, ça ressemblait un petit peu à un central des PTT, avec des patrons de CDM à qui on pourrait rendre hommage avec un petit mot, parce que c'était des gens.
Je me souviens,
il y avait un petit chinois ou japonais qui s'appelait Fan, qui était extraordinaire. Alors, il suffisait que ces gens-là s'absentent 2 minutes pour aller pisser ou pour aller boire un coup. Et tout d'un coup, tous les branchements qui devaient être faits pour que le Pierre Laforêt se retrouve à l'antenne avec Sam Bernet, ça marchait pas. Et il y avait un merdier, un vrai vrai merdier de télécommunications à l'époque.
Il y a des choses que les auditeurs ont jamais entendues, sont certains enregistrements. Quand par exemple Albert Simon enregistrait une prévision météo, il faut dire que ça se faisait pas tout seul. Et notamment quand il y avait quelqu'un en face de lui qui s'ingéniait à le faire un petit peu marcher. Ça vous dit quelque chose, ça? C'était Jean-Claude Dacier par exemple qui présentait l'une des grandes éditions de la journée et il prenait alors lui un malin plaisir à essayer de déstabiliser notre Albert national à ces moments-là. On écoute.
Albert ? Je suis prêt pour le duplex. Ah bon, bah, je vous entendais pas. Ça va-t-il ? Oui, ça va, je vous remercie. Bon. Ne me demandez pas de mes nouvelles, hein, comme ça je vous en donnerai. Mais je vous ai vu tout à l'heure. Ah, c'est vrai. Bon, alors mon cher Albert. Vous modulez, il module. Albert, non du Dieu. Albert. Je module, tu modules, il module. Nous modulons, vous modulez, il module. Bon alors Albert, c'est fini cette rigolade, oui j'aime bien votre humour, mais enfin ça a des limites. Albert.
Je module, tu modules, il module.
Module.
Alors mon cher Albert, est-ce que en cherchant bien, nous allons pouvoir trouver quelques brins de muguet fleuris ce week-end?
Oui, on pourra mugueter sa belle, mais il faudra quand même bien se couvrir.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Simon? Qu'est-ce que ça veut dire mugueter sa belle?
Hein?
Ben ça veut dire offrir du muguet à sa belle.
Ah bon? Mais il faudra l'acheter.
Ben évidemment.
Il y en a dans les bois ou non?
Oh, il y en a sûrement, oui.
À l'évidence, il ne peut pas y en avoir avec le temps de merde que vous nous annoncez depuis 3 semaines.
Pourquoi? Il a fait très beau pendant. Il y a eu beaucoup plus de soleil que d'habitude.
Je vais vous filer une plainte au comité d'entreprise, vous allez voir. On recommence. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Alors, Simon, trouvera-t-on du week-end ce week-end, mon Dieu?
Attends.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Est-ce qu'il y aura du muguet ce week-end?
Robert, on n'a jamais su si Albert Simon aimait ça ou pas.
Albert n'aimait pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'Albert était quelqu'un de très timide. Alors à la fois, je pense que fondamentalement, ça le faisait quand même...
Toujours, hein, on l'a vu il n'y a pas longtemps.
Il va bien. Très très bien, Albert.
Un peu voûté, mais il va bien.
Mais il va très bien. C'était quelqu'un de très timide, qui aimait beaucoup les choses rigoureuses. Donc effectivement, à la fois, je pense que fondamentalement, ça devait l'amuser. Mais lorsqu'il aimait, c'était quelqu'un qui aimait les choses très carrées. Donc il avait un petit peu de mal à s'accorder quand même.
Mais là, c'est lui qui rigole. Mugueter sa belle, c'est quand même lui qui l'invente, c'est pas Jean-Claude.
Oui, mais parce que de temps en temps, il s'accordait. Mais
il aimait bien qu'on le taquine, Albert aussi. Hein. Mmh. Il aimait bien qu'il y ait des femmes autour de lui qui viennent l'embrasser. Il était content comme tout. Hein.
Assumait son statut de vedette.
C'était un vrai, vrai personnage. Mais quel âge il a aujourd'hui, Albert? Vous l'avez revu ou pas?
Oui, il est venu ici. Il a même enregistré un petit bout de son pour nous parler de son passé dans l'aviation américaine.
Il était dans l'aviation américaine en Égypte. Ah, oui. Il nous avait raconté ça, il était très peu disert hein, sur son passé, mais puisqu'il y a prescription, est-ce que j'ai le droit de dire aujourd'hui quelque chose que j'ai caché pendant des années? Avec Jean-Louis Sauvent qui nous a quittés récemment, un enfant d'Europe 1, on salue sa mémoire et son souvenir, on avait fait un faux enregistrement d'Albert Simon et il est passé. à 5h30. Et je dois le dire maintenant, pendant des années, à Europe 1, un responsable a cherché qui c'était. On s'est défilé, évidemment, André. Donc aujourd'hui, je l'avoue publiquement, c'était moi. On avait fait un Albert Simon, et avec des choses énormes, on disait, le vent va souffler à 483 km sur la Haute-Savoie, il y aura des dégâts terribles et tout. Et donc, Jean-Louis, au début, avait écouté le début du bobino, qu'on appelait un bobino, et c'était sérieux, c'était, oui, une grosse tempête va arriver la semaine prochaine, ça passait crédible. Il n'avait pas écouté la fin, et donc, voilà, j'avoue, aujourd'hui, c'était nous. C'est passé à 5h30, ils ont cherché pendant des années. Aujourd'hui, je pense que...
Il y a prescription.
Ma punition sera d'aller le dire en personne à Albert Simon.
On se retrouve dans quelques instants après une courte pause.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1, en fait, avec Alexandre Marcelin, Robert Marcelin, Xavier Collin, Edmond Zoukeli. On va revenir à la rédaction tout à l'heure, mais si on se faisait un petit sketch avec celui qui aura marqué les débuts de cette antenne, Francis Blanche, accompagné de son fidèle complice, Robert Villard, le saint patron du jour.
Par exemple, là, j'ai trouvé dans mon courrier une lettre d'un monsieur qui me demande quelle est l'origine du pont neuf. Pourquoi le pont neuf ? Eh bien, monsieur, je suis en mesure de vous le dire, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Le pont neuf, n'est-ce pas, en réalité, signifie le pont numéro 9. Parce que ça date de l'époque où, à Paris, on numérotait les ponts. Il y avait le pont 1, le pont 2, le pont 3, etc., etc., le pont 8 et le pont 9. Les autres, on leur a donné des noms maintenant. Celui-là a conservé son chiffre. Mais dites-vous bien que c'est ça date de l'époque où on numérotait les ponts. C'est pas un principe nouveau, d'ailleurs. Vous savez très bien qu'à Rome, on numérotait les églises, les chapelles. On les numérotait en anglais, pour ne pas confondre avec les papes qui, eux, étaient numérotés en latin. C'est pour ça que vous avez encore à Rome la chapelle Sixtine. Vous voyez, c'est noté, monsieur. Vous voyez comment on s'instruit avec moi. Je vous ai promis tout à l'heure de vous parler du saint du jour. Eh bien, aujourd'hui, le saint s'appelle Saint Gargamin. Qu'est-ce que je suis érudit, hein,
Dedans, vous savez que je m'instruis, je suis passionné par tout ce que vous dites. Saint-Gargamin.
Saint-Gargamin de Rocancourt.
Ah, de Rocancourt.
Oui, 1120-1189. Uh-huh. Il naît dans le petit village de Morzy-les-Joyeuses à l'âge de 2 ans et demi.
Ah, c'est
extraordinaire.
Oui, c'est assez curieux.
Étonné de sa précocité, ses parents le destinent à la carrière d'attendrisseur de viande sur les marchés ruraux. Touché par la foi vers 3 ans et demi, il rachète les vêtements d'un moine défroqué et passe en Angleterre caché dans une caisse de lessive aux enzymes. À moitié dévoré, il est recueilli par une confrérie de frères gourgandins qui lui donnent en même temps le baptême, la première communion, l'extrême onction et la médaille des arts et lettres qui n'était pas encore à la mode à cette époque-là. Relâché moyennant une caution de 3 guinées yougoslaves, il devient chanoine de Saint-Patrick et reçoit le diaconat des mains de Thomas Becket. Il accompagne ce dernier en France en 1153 et lui sauve la vie au cours d'une tournée Paris by Night. En effet, Becket, surpris par l'heure de la fermeture dans un caveau montmartrois mal famé, ne trouvait plus la sortie. En 1174, Gargamin assiste au synode de Tours, où il fait 3e derrière Poiret et Serrault, avec 3 minutes 57 secondes 4/5e, puis se retire à Rocancourt, où il vit en ermite sur les lieux où s'élève aujourd'hui Paris 2. C'est intéressant tout ça.
Ah, c'est très intéressant.
Il s'occupe activement de sa propre béatification qu'il obtient grâce à ses sympathies dans les milieux de la majorité. Il devient donc Saint Gargamin et meurt content et épuisé en 1189, juste 600 ans avant la Révolution, qu'il avait tout fait pour éviter en prêchant la résignation, la participation des ouvriers aux bénéfices et la loi anti-casseur. Il fut inhumé en partie à Carcassonne où il avait un vieil oncle incarné, très avare, en partie à la Selle Saint-Cloud, où on peut le visiter tous les jours jusqu'à 22h30, matinée dimanche, fermée le lundi. Alors n'hésitez pas, si vous voulez voir les reliques de Saint-Gargamin, vous allez à la Selle. Saint-Gargamin, Saint-Cloud. Saint-Gargamin est invoqué pour les maux de tête, les maux de reins, les maux croisés et l'impétigo. C'est le patron des PDG célibataires. Ne pas le confondre avec Saint-Gargamin de Nanterre, qui n'existe pas.
Voilà, j'en ai deux sous la table, là, donc je vais m'adresser aux deux qui restent. Alexandre, vu ton grand âge, tu as connu Francis Blanche?
Non, malheureusement, je l'ai pas connu.
Il a raté de peu, alors.
Je suis rentré à Europe 1 en 71.
Ouais.
Ça fait 36 ans, 35 ans, ça fait peur quand on dit ça. Non, je l'ai pas connu. Mais les humoristes se rendent pas compte à quel point ils doivent à Europe 1, en fait. Parce que quand on écoutait Europe 1 dans les années 60, à l'époque, il y a pas mal de gens qui ont oublié, hein, Xavier. C'est que les radios françaises qu'on peut citer, qui étaient Luxembourg d'un côté, et France Inter de l'autre, étaient des radios où on se marrait pas vraiment. Et Europe 1 avait ce mélange incroyable d'une extrême rigueur et d'un ton nouveau au niveau journalistique, où il y avait vraiment un ton très 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 fort. Et il y avait des programmes où il y avait plein de jeunes mecs qui étaient Jacques Martin, qui étaient Jean-Yann, qui étaient Francis Blanche.
C'est ce contraste qui faisait.
Et il y avait cette magie et ce contraste qui ont créé, à mon sens, hein, moi j'étais auditeur à l'époque, ce ton Europe 1 complètement inimitable qu'on ressent même toujours aujourd'hui. Avec le matin, ce mélange que vous avez avec les tranches d'infos qui sont quand même très rigoureuses, mais avec des mecs après 8h30 qui viennent se fendre la gueule. Et ce ton existe toujours.
Et en même temps, par contagion, le fait qu'effectivement on a pu reprocher à Europe 1 une certaine impertinence dans la façon qu'elle avait de traiter l'information. Donc,
parfois,
on regarde un peu distancié. Et les humoristes qui réussissent à Europe 1 ont tous un regard sur l'actualité. Et ça, je pense que c'est une spécificité d'Europe 1. Ils ne se contentent pas d'être des amuseurs. Là, le papier de Francis Blanche est un papier qui est en technique radio et ma foi fort bien écrit.
Mais vous savez que par exemple Coluche venait toujours à la rédaction avec son petit dictaphone. Il discutait avec les uns, avec les autres. Il se marrait, des fois il se moquait de nous, mais toujours. Il enregistrait sur son petit dictaphone. Il avait une idée, deux idées, trois idées, et à la fin, 15 jours, 3 mois plus tard, 3 mois après, on retrouvait ce qu'on avait dit. Et Coluche en était servi. Il avait mis à sa sauce, intelligemment et avec un sens journalistique qu'à l'époque on n'avait pas remarqué.
Alors quand on parle de Francis Blanche, tout le monde a forcément en tête un sketch, le fameux sketch du tsar Rabindranath Duval. En voici une version spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle a été enregistrée en 1974 dans les studios d'Europe 1, c'est-à-dire ici même. Ça lui donne un cachet un petit peu particulier.
Je me demande s'il ne faudrait pas profiter de la présence parmi nous de Pierre Dac pour l'interroger sur la situation qui est en ce moment particulièrement intéressante.
Oui. J'aimerais, Pierre, à cette occasion que vous preniez le personnage du tsar Rabindranath Duval, que vous incarnez depuis si longtemps, avec autant de bonheur.
Incarnez de blanchisseuse.
Alors remettez-vous en fleur de lotus.
Encore?
Oui.
Ah merde alors.
Il n'y a pas de fakir sans lotus.
Mais il y a des lotus sans fakir.
Voilà. Parfait.
Oui.
Votre sérénité.
Oui.
Vous êtes natif de l'Inde.
Je suis natif de l'Inde.
De quel endroit dans l'Inde?
Chef-lieu de l'Inde.
Quel est le chef-lieu?
Châteauroux.
La réponse à tout, même dans une langue qui n'est pas la sienne, car la sienne est plutôt chargée aujourd'hui. À la suite des gentils petits scotch dont il s'est bourré jusqu'à présent. Votre sérénité.
On verrait quand même, non?
Vous avez un don de double vue.
Oh oui, je vois double.
Il voit double. Ça ne m'étonne pas, c'est ce que je vous disais. Ce don vous a été donné à votre naissance par les deux divinités tutélaires de l'Inde.
Oui.
Brahma et Vishnu.
Brahma et Vishnu, oui.
Brahma, la guerre.
Et Vishnu, la paix.
La réponse à tout. Votre sérénité.
Ouais.
Vous suivez, je crois, un régime très sévère.
Très sévère.
Vous faites du yoga.
Fais du yoga, bien sûr, la preuve. Fais du yoga, mais ça, c'est spécial, c'est le lotus, la pose fondamentale du yoga, qui procède du zen d'Avesta, bien sûr. Mais je fais surtout du yoga nasal.
Du yoga nasal, oui. Qu'est-ce que c'est? Vous mettez votre nez en fleur d'artichaut.
C'est ce qu'on appelle le yoga de la narine.
Ah.
Je suis, voilà, le yoga de la narine.
Vous suivez, je crois, également un régime alimentaire très strict. Répondez-moi.
Oui.
Vous suivez un régime alimentaire très strict.
Extrêmement strict.
Ainsi, ce soir, comment allez-vous dîner?
Je dîne selon la coutume alimentaire et rituel des tsars, c'est-à-dire uniquement de la cuisine à l'huile.
Pourquoi la cuisine à l'huile?
Parce que les tsars dînent à l'huile.
Les merveilleux. Un jeu de mots hindou intraduisible ailleurs qu'à Chandernagore.
Ouais.
Dites-moi, votre sérénité.
Ouais, escroc.
Bandit.
Sale juif.
Mal élevé. Ouais. Vendu aux Arabes.
Ouais.
Vous puez l'essence.
Ouais. Ouais, il n'y a pas de quoi en faire un bidon, non?
Dites-moi, votre célébrité, puisque vous voyez de loin, est-ce que vous pouvez nous prédire l'avenir?
De loin?
Oui.
Oui, je peux même vous dire ce qui se passe très loin d'ici.
D'accord, dites-nous ce qui se passera dans l'avenir proche.
En Amérique latine.
Oui.
Notamment.
Où?
Je peux vous dire qu'à Brasilia du Brésil.
Oui.
C'est la pharmacie Lopez qui sera de garde dimanche prochain.
Voilà. C'est tout, il est merveilleux, il est vareuse.
Alors.
Il est unique, pardon, je me suis trompé de vêtements, mais ça peut arriver. Votre sérénité, vous êtes merveilleux, envoyez des baisers à l'assistance publique pendant que je dis merci mesdames, merci mesdemoiselles, merci messieurs.
Francis Blanche et Pierre Dac, enregistrés dans les studios d'Europe 1. Pourquoi ça marche à tous les coups, à votre avis ? Robert,
parce que c'est extraordinairement drôle, parce que je pense que à cette époque-là, les gens déjà écoutent beaucoup plus la radio. Faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y a pas 50 chaînes de télévision. Donc je pense que le public est à l'écoute de la radio et est à l'écoute de gens qui ont une manière d'écrire qui est absolument extraordinaire. Quand Pierre Dac, évidemment, ça paraît maintenant des choses qu'on a entendues, réentendues, qui sont passées dans le domaine public, mais des choses comme Monsieur a son avenir devant lui, il l'aura derrière lui à chaque fois qu'il fera demi-tour. Ce qui est du bon sens, on le retrouve dans ce sketch et on le retrouve dans tout l'humour de Pierre Dac et de Francis Blanche.
Et puis c'est surtout à la radio, il y a une notion qui est essentielle, qui est la radio de rythme, et notamment de rythme dans le phrasé. Et je sais pas si vous entendez ce numéro parfait de duettiste, c'est-à-dire que la balle circule de l'un à l'autre dans un rythme qui en lui-même est tellement à la fois surprenant, déroutant, et avec un tel plaisir, une telle jouissance tous les deux, qu'on ne peut que glisser et puis finir par éclater.
Ce qu'il faut rajouter surtout, c'est que ces deux-là avaient une complicité extraordinaire, mais ils avaient une rigueur de travail aussi incroyable. C'est-à-dire que tout était quand même très très écrit. Et ils se permettaient d'improviser, parce qu'une fois sur deux, ils étaient ivres morts. C'est vrai, l'enregistrement qu'on connaît, mythique, du Sarabine Granat du Var, qui a été fait à l'Olympia, je crois, lors d'un musicorama, oui. Ils étaient pétés comme des coins tous les deux. Oui. Et quand ils perdent véritablement le fil de leur texte, là, ils se mettent à improviser, parce qu'ils étaient ivres morts. Mais leur travail d'écriture est incroyable. C'est des mecs qui bossaient, surtout.
Comme quoi, dès qu'il n'y a plus d'inhibition, c'est forcément meilleur. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause.
Marc Tronchot.
Retour sur le plateau des Enfants d'Europe 1 avec Xavier Collin, Robert Marcellin, Alexandre Marcellin, Edmond Zoukeli pour faire la fête avec vous. Des sketchs, il peut y en avoir également à l'antenne dans les journaux d'information. Tout le monde a bien connu ici André Arnault, reporter puis présentateur du journal, notamment toi Edmond, parce que tu as été présentateur du 13h quand André faisait le 12h30. C'est un peu ton père spirituel, non André?
Oh, ça a été mon père spirituel, ça a été mon maître, ça a été mon formateur. André m'a appris à écrire de toutes les façons dont on peut écrire à la radio. Pour vous donner une idée, vous l'avez tous connu, il y a un peu un rite initiatique Europe 1, quand vous entriez dans la rédaction, il y avait forcément le premier jour où vous entriez dans le bureau d'André pour lui porter un papier pour son journal.
C'était terrifiant.
Il prenait le papier, imaginez, donc en face des jeunes gens de 25 ans.
Les mains qui tremblent là.
Les mains tremblaient. Et alors, il fallait surtout pas arriver trop tard. André ne supportait pas la copie qui arrivait en retard, qui ne lui servait à rien et qui désorganisait son journal, donc il fallait déjà arriver à l'heure. Et alors après, c'était le mot « on ». Tu as employé le mot « on » et qui se souvient, hein, vous vous souvenez de cette phrase, le mot « on », tu ne désignes pas avec ce mot le sujet de ta phrase, il manque donc une information, va me refaire ce papier, c'est un tournoi. Là, il pouvait partir dans des colères avec une grande mauvaise foi.
Oui.
Hein.
Et un qualificatif qu'il ne supportait pas, c'est « véritablement ». Toute personne qui mettait et c'était véritablement une catastrophe, il supportait
et
pas.
Et le mot problème était totalement banni.
Tout à fait, il y avait des mots qui étaient bannis trop de temps le langage.
Moi, je voudrais vous poser une question en fait de coulisses, parce qu'on m'a toujours raconté un truc que j'ai du mal à croire. J'ai entendu André Arnault dire assez souvent dans ses journaux, qui pour moi étaient mythiques, il disait « Oh, on m'apporte une dépêche au dernier moment » et il balançait la dépêche. On m'a dit que « On m'apporte la dépêche », c'était lui qui l'écrivait, en fait, on lui apportait pas du tout de dépêche, et que ça fait partie de ses secrets de fabrication, et à l'antenne, c'était extraordinaire.
Mais c'est vrai qu'il y avait un Telexman.
André m'a expliqué la recette, c'est-à-dire que quand il arrive un événement imprévu, c'est vrai que les journaux sont très fabriqué. Il faut vraiment faire attention quand on fabrique un journal. André, lorsqu'il se passe quelque chose d'imprévu, m'a toujours dit, dis-le tout de suite aux auditeurs, et ce respect pour eux. Et donc André se tournait, la porte du studio s'ouvrait, et disait, je me souviens de la formule, voici arrivé Régis, le Telexman le plus véloce de la place de Paris, qui à l'instant m'apporte une dépêche, et cette dépêche me dit, et voilà, tout était dit.
Vraiment.
Et ouais. Il l'a découvert à l'antenne.
Et des fois, c'était pas important du tout.
Et ça fait rien. Et ça passait merveilleusement.
Journaliste hyper sérieux, et pourtant, il était plutôt joueur comme garçon. Vous allez écouter, André, il est pas tout seul, c'est l'heure d'un journal, et le rire est plutôt communicatif.
Mais le député hollandais pose la question à Jacques Barrot. Il se fait l'écho d'une rumeur. Le premier ministre lui répondra ce soir. Il n'y a peut-être rien de vrai.
Le leader des députés catholiques, lui, est surtout intéressé par le conflit qui a pu naître entre le gouvernement et la reine Juliana. Il a posé...
Nous rions tous en même temps. Alors, qu'il s'agit d'une affaire sérieuse.
Le leader socialiste a lui aussi...
Écoutez, cette affaire n'est quand même pas...
Le leader socialiste a lui aussi posé une question. Comment se fait-il, a-t-il demandé,
que notre ambassadeur à Madrid n'ait pas été congédié?
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Oui, vraiment, le ton était assez vif à cette séance.
Assez vif, en effet, Christian Barbier. Un député a regretté que le fiancé de la princesse Irène appartienne au mouvement carliste, c'est-à-dire au mouvement qui s'est rangé aux côtés de Franco dès le début de la guerre civile espagnole.
Et ce député a d'ailleurs demandé que le mariage soit célébré ailleurs qu'en Hollande.
Et n'oublions pas que le peuple hollandais, lui, dit sa joie sans arrière-pensée. Ce matin, à La Haye, les jeunes filles des lycées ont eu une attention charmante sur le passage d'Irène et de Charles Hugues. Oui,
elles ont fait...
Non, écoutez bien. Elles ont fait...
Je tournerai à la place de la globe, de la luette.
Soyons sérieux. Il faudrait peut-être dire, avant de clore ce chapitre, que le prince Charles Hugues a quitté sa fiancée pour regagner Madrid. Le prince Bernard lui-même l'a conduit en avion jusqu'à Paris.
Et nous passons à maintenant des affaires diplomatiques de notre ordre. Un petit homme jaune coiffé d'un chapeau de feutre. Bon, monsieur, écoutez... Franchement, nous avons un journal à faire et qui doit durer jusqu'à 8h12 avec un tas d'informations à donner. Je crois quand même que pour aussi joyeux que vous soyez et que je suis moi-même, il faut les donner. Donc, je disais, un petit homme jaune coiffé d'un chapeau de feutre noir rabattu sur les yeux est sorti en trombe d'une grosse voiture américaine et s'est engouffré dans le hall du ministère des Affaires étrangères poursuivi par les flashs des photographes. À Paris aujourd'hui, il était 5h du soir. La pendule à la pendule du Quai d'Orsay, et Guiclès, une page des relations franco-chinoises, allait être tournée.
Ce visiteur si pressé, c'était en effet M. Cao Shiming, le chargé d'affaires de Formose à Paris. Il venait faire ses adieux au gouvernement français à la suite de la décision du maréchal Chiang Kai-shek de rompre les relations diplomatiques avec la France.
Et tout a été réglé très rapidement. À Taipei, le chargé d'affaires français, M. Salade, avait dû faire antichambre pendant une heure avant d'être reçu par un représentant du gouvernement de Formose. Monsieur Cao Shiming, lui, n'a pas eu à attendre.
Il y a trois temps.
C'est ça l'avantage du journal, parler à plusieurs voix.
C'est Guy Claes, Christian Barbier, André Arnaud. Il faut savoir qu'ils ont été vertement rappelés à l'ordre le lendemain par la direction pour se fourrir. Ça n'était pas vraiment la règle. Hein. Je veux dire, c'était quand même une exception.
Le fourrir devait être une exception, mais après tout, il était, je dirais même, encouragé si l'auditeur pouvait participer à ce fourrir, c'est-à-dire si, en gros, il comprenait pourquoi les journalistes riaient, ce qui est évidemment le cas dans cet extrait.
Alexandre ?
Non, c'est des souvenirs incroyables quand j'entends ça. Ça manque un petit peu à l'antenne aujourd'hui. La seule chose qu'on pourrait reprocher aux radios aujourd'hui en général, c'est que vous êtes devenu assez rigoureux. Ça rigole un tout petit peu moins. Vous avez peur de vous faire engueuler ou
je
pas ?
Je sais pas.
Honnêtement.
Je sais pas. C'est une question de culture peut-être. Les jeunes sont encore trop jeunes. Ouais, peut-être. Bon, mais des fous rires, il y en a aussi quand nous autres journalistes on peine à enregistrer certains de nos papiers. On va mettre Xavier Collin sur le grill. Un papier sur une prothèse de verre, tu te souviens, non?
Oui, j'ai souvenir. C'était très audacieux. C'est Jean-Claude Dassy qui m'avait dit, écoute, il y a un truc extraordinaire aux entretiens de Bichat, donc les entretiens médicaux. Ouais. Ils vont présenter pour la première fois des implants péniens. Alors d'abord, je lui ai fait répéter. Je lui ai dit, monsieur, c'est un implant pénien. Et donc, c'était une prothèse, non pas une prothèse de la verge, mais prothèse dans la verge. Je me suis retrouvé donc avec ce travail et cette mission pour le moins difficile, ouais, de rendre grand public quelque chose qui était jusque-là, peut-être de nos jours on a assez popularisé, mais qui à l'époque était réservé à un milieu, ouais, quand même très scientifique. Et à mettre en ondes, si j'ose dire,
là où on t'a rendu service, c'est qu'on ne te l'a pas fait faire en direct. Et,
il fallait mieux.
Il valait mieux. Hein.
Il fallait mieux.
L'enregistrement, on a gardé une trace.
Alors, je t'aurais prévenu, laisse tourner, ça va être du gâteau. Ah putain, dis donc. Il faut. Oh là, j'y arriverai pas. C'est pas possible. Ne me regarde même pas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce que nous verrons ce soir sur TF1, ce sont les explications et les résultats des opérations pratiquées sur 110 patients. Il s'agit, il faut le préciser, de patients. T'as deviné ! Bravo, tu sais de quoi on va parler. Et voilà, bon alors là, maintenant là pour 3 heures. Allez. Oh, j'y arriverai pas. 5, 4, 2, 1, mais comment veux-tu que j'arrive à faire ce papier ? C'est pas possible. Ah, oh, c'est pas possible entre le zizi gonflable. Ah oh là là. Bon, on continue. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il s'agit, il faut le préciser, de patients atteints d'impuissance organique et non pas psychologique. Organique, c'est-à-dire une impuissance d'origine artérielle, neurologique ou encore une impuissance due à des fibroses dans le corps principal de la verge. Comment se présente cet accord ? J'y arriverai jamais à dire. Ah, c'est pas vrai, arrêtez-le, j'en veux. On continue. Il s'agit d'une prothèse qui est placée entièrement à l'intérieur du pénis, donc invisible de l'extérieur, et c'est pourquoi on parle exactement d'un implant pénien. Cet implant est constitué de deux cylindres en silicone de 10 à 11 mm de diamètre. Chacun de ces cylindres comporte deux parties, la première moitié inférieure qui est souple. C'est cette moitié-là que le chirurgien place à la base de la verge et qui laisse au pénis toute sa mobilité. Oh merde, j'étais bien parti en plus. Ah là là, j'avais fait presque la moitié. Ah, c'est affreux, parce qu'en plus, chaque fois, je pense au film La tendresse bordel, quand le mec fait tourner son zizi, qu'est-ce que tu veux qu'il laisse la mobilité au zizi, qu'est-ce qu'il m'a pris de me lancer dans un truc pareil. Oh là là. Allez, je recommence. Alors, comment se présente cet appareil ? Il s'agit d'une prothèse qui est placée entièrement à l'intérieur du pénis, donc invisible de l'extérieur, et c'est pourquoi on parle d'un implant pénien. Cet implant est constitué de...
Il me prend à son cul. Xavier, tu vas mettre combien de temps de mémoire ?
Mais Robert était là, Alexandre était là, je dirais, ça va bien durer une bonne demi-heure. Ouais. Bon, c'est très difficile, on peut toujours imaginer qu'en direct, j'y serais arrivé du premier coup, ou qu'avec André Arnaud, on serait parti d'un grand fou rire. Mais c'est ça aussi, la richesse de la radio, c'est le fait qu'on se lance dans des aventures difficiles. Parfois, c'est vraiment très difficile.
Alors, ce qu'il faut raconter, ce que les auditeurs ne peuvent pas savoir, c'est comment ça se passe, véritablement. Ouais. Il y a un studio avec une vitre. Le studio, Xavier Collin est tout seul, isolé avec sa feuille de papier et son texte, le fou rire démarre, il lève le nez et en face de la vitre, l'autre côté, il y a un technicien et un réalisateur, la plupart du temps, à qui on peut rendre hommage parce que la radio ne se ferait pas sans technicien ni réalisateur. Et ils ont un rôle, ces gens-là, prépondérant, puisqu'ils organisent l'antenne, mais ils ont un truc extraordinaire aussi qui est un micro d'ordre. Ouais. Un micro d'ordre, c'est un petit bouton sur lequel le réalisateur ou le technicien appuie et dit des trucs dans le casque. Et nous, à l'époque, dans les années 70-80, notre grand jeu, bien évidemment, c'était aussi de faire planter les journalistes et les animateurs. Donc, on leur sortait énormément de conneries dans le casque.
Ah.
Et ça dérapait. Quand on a un Colin qui démarre avec sa prothèse de la verge, nous, on est de l'autre côté, il commence à y avoir un attroupement derrière la vitre, et allons-y gaiement, et là, ça devient un spectacle.
Tu as été victime, Edmond, de ce genre de machination.
On a tous été victimes, tous ceux qui sont passés à l'antenne, ils ont eu droit. Moi, je dois dire que je résistais assez bien au fou rire, mais quand on part, il faut le savoir, on part complètement. C'est-à-dire qu'on a quand même, vous qui nous écoutez, sachez que quand on vous parle, on a la conscience que vous êtes des centaines de milliers à nous entendre, et ça nous donne, bon, c'est un poids qu'il faut porter.
Des millions pour Europe.
Des millions, voilà. Donc on résiste de toutes nos forces. Mmh. Et puis quand on part, que ça soit en direct ou en différé, c'est un peu la même chose. Quand on part, alors là, on part complètement. Alors moi, je suis parti un jour complètement, vous rien, pour un son injecté dans mon casque, un moustique.
J'entends, pendant que je parlais, le casque sur les oreilles avec un retour solide en son, un son bien charnu, et j'entends d'un coup qui se glisse. Alors, j'étais surpris, déstabilisé. Et là, j'entends un monstrueux bruit de tapette. J'entends schlarac. Et alors, le 2, ça m'arrive dessus. J'ai pas pu finir. Alors, heureusement, c'était un flash de nuit. J'ai pas pu finir. C'était ridicule, mais voilà, j'étais parti, j'avais glissé, et après, on ne se rattrape plus.
Encore une pause, et on se retrouve après.
Marc Tronchot.
Retour dans le studio Merlin avec les enfants d'Europe 1 qui font la fête avec
Xavier Collin. Et un peu de médecine.
Médecine aussi.
Et on est à jeun encore.
Xavier Collin, Robert Marcelin, Alexandre Marcelin et Edmond Kelly. On va revenir au programme et à l'un de ces grands comiques, et il y en a eu hein, sur cette antenne, qui s'y sont succédés. On va pas les écouter dans l'ordre chronologique, mais de façon presque aléatoire, puisque c'est moi qui choisis. Et j'ai choisi Pierre Péchin dans un des canulars téléphoniques qui l'ont rendu célèbre.
Allô?
Bon, allô, j'écoute.
Allô, bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Vous êtes la jeune femme professeure?
Je suis sa maman, monsieur.
Ah, elle n'est pas là.
Elle n'est pas là, mais je peux la toucher si vous voulez.
Ah bon? Eh bien, allez-y, je vous en prie.
Écoutez,
est-ce que je pourrais le faire également?
Ah, vous pourriez peut-être la toucher, elle est à vierzon, là.
Très bien, alors...
Je sens
qu'on va bien s'entendre.
Bon, alors, écoutez, il faudrait que vous téléphoniez chez le docteur.
Est-ce que je peux toucher le docteur avant? Avant de la toucher, elle.
Ce sont ses beaux-parents.
Ah, bon, eh ben, écoutez, je peux toucher toute la famille.
Oui.
Très bien.
Alors, là, elle vient de repartir de chez moi, et elle est chez son beau-père.
Bon,
voilà.
Alors, comme ça, je vais pouvoir les toucher tout de suite.
Oui, oh, ben, je vous remercie beaucoup. Monsieur.
Mais je vous en prie, madame.
Voilà,
tout le plaisir est pour moi.
Voilà, bonsoir, monsieur.
Est-ce que je peux vous toucher aussi dans la soirée, éventuellement?
Oh, oui.
Quelle merveilleuse famille.
Ah, oui, on s'entend très bien.
Merci, madame. Au revoir, madame.
Bonsoir, monsieur.
Pierre Péchin, un très grand, très très grand. Alors là, je me tourne vers Alexandre, parce que tu as été son réalisateur, son complice.
Ouais.
Plus encore?
Oui, j'ai été son auteur aussi. On était en fait à trois. Il y avait Pierre Péchin, Jean Châtel.
Vous en avez fait voir des vertes et des pas mûres, mais alors...
Oui, ça a été...
Pas mal de monde.
Je crois qu'on a pendant deux ou trois ans, puisque ça a dû durer deux ou trois ans sur Europe, fin des années 70, jamais on a autant ri qu'avec Péchin. Mais c'était une petite usine à trois. On a ri. Alors c'était... Il faut expliquer comment ça se passe, ces gags téléphoniques. Parce que celui-là, il n'était pas du tout prévu. Celui-là, on partait complètement sur une autre idée. Il a fallu qu'elle dise oui, vous, je peux toucher votre fille, etc. Donc c'est parti dans l'improvisation. Mais sinon, on se retrouve avec Pierre le matin vers 10-11 heures du mat. On se retrouve au bistrot en bas. Et avec Châtel, on cherchait dans l'annuaire des idées
Jean
de
Châtel,
ouais. Ouais, des idées de métier, des trucs comme ça. Et on écrivait. Et alors ensuite, ça se passait comment? Entre midi et 15 heures, on enregistrait ce qu'on appelait à l'époque des néophones. Ça s'appelait comme ça des gags téléphoniques sur téléphone. Et pour en garder 8 par jour, parce qu'on devait en faire 6 ou 8 par jour, on en faisait 25 ou 30. Et là, c'était... Alors, il y avait Pierre qui était au micro, qui était le gagman. Il y avait Châtel à côté qui, au fur et à mesure, lui écrivait des trucs en direct, des répliques, des machins. Et moi, j'étais de l'autre côté à la console, au micro d'ordre, à lui souffler. Ça a été pendant 2-3 ans de rigolade, de fou rire. Ça a été fabuleux, Péchin. Hein, un des plus grands de tous.
Ça a été un des grands messieurs d'Europe 1.
Petit détail sur Péchin. Il est rare que un grand comique soit animateur de radio. Et Pierre a été un immense animateur de radio, en plus, qu'on a oublié. Ça a été un DJ, okay, il jouait avec la musique, il jouait avec l'humour.
Il jouait avec sa voix.
Ouais, il jouait avec sa voix. Ça a été un type, et c'est toujours un type formidable.
Ouais, ouais, moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il joue toujours très, très bien avec sa voix. Xavier, tu voulais ajouter un truc?
C'était un très grand monsieur d'Europe 1, et nous, les jeunes reporters, quand on était à droite à gauche, le souvenir que j'en ai à l'époque, c'est que les gens nous disaient: ah, vous êtes d'Europe 1. Et invariablement, on y disait: vous connaissez Pierre Bellemare? Première personnalité, c'était. Et ensuite, est-ce que vous avez déjà vu Pierre Péchin? Hein? Donc, c'était les deux personnages à l'époque qui étaient probablement assez, disons, les plus emblématiques. Au moment de La Cigale et la Fourmi, par exemple, c'était un succès total.
Vous savez où ça a été écrit, La Cigale et la Fourmi? Au bistrot d'en bas. Ça a été écrit un jour pour une émission, connerie comme ça. On l'a balancé un jour dans l'émission et c'est devenu un tube après, mais ça a été écrit au bistrot.
C'est toujours dans les bistrots qu'on écrit les
meilleures choses. Une heure ou deux avant l'émission. Mais Pierre Péchin fait partie de la grande tradition des blagues téléphones. Il y en a, il y a eu, et ils sont tous venus sur Europe 1, ils sont nés sur Europe 1.
Le vrai grand premier, c'est Francis, Blanche. Oui. Ensuite, ça a été Pierre Péchin. Et ensuite, ça a été La Fesse, ouais, qui est un extraordinaire dans un autre genre, gagman téléphone.
Eh ben, à mon sens, effectivement, c'est l'un des meilleurs. Et on va retrouver l'un de ses meilleurs sketchs dans l'émission de Barbier, Barbier de nuit en 93. Une émission spéciale faite à l'occasion de la cérémonie des Molières. La précision est importante. On va comprendre pourquoi.
Une cérémonie qui a toujours son importance. Et je savais pas, La Fesse, que vous étiez très intéressé par le théâtre. Je sais bien que vous faites beaucoup
de choses. Ah, si, le théâtre, oui. Les cérémonies, peut-être un peu moins, mais le théâtre, oui.
C'est un sort.
Ouais. Ah oui. Alors moi, bon, bah, la cérémonie, c'est une cérémonie, quoi. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de nominations, de catégories.
Oui.
J'en ai rajouté une.
C'est-à-dire ?
Ben, tu vas entendre.
Je m'attends au pire, là.
Allô ?
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour.
Monsieur Perrault.
Oui.
Oui, c'est Christian Barbier d'Europe 1, l'appareil.
Ah oui.
Pour la désormais très célèbre cérémonie des Molières du téléphone.
Ah oui, oui.
Vous êtes au courant ?
Non.
Eh bien, chaque année, monsieur, dans le département, nous décernons les Molières du téléphone.
Ah bon ?
Aux personnes qui ont le mieux téléphoné, qui n'ont jamais réclamé, qui n'ont jamais raccroché à leur interlocuteur.
Première nouvelle, hein ?
Vous avez été nominé donc avec monsieur Ledoux Robert. Je vous attends. Je vous attends.
Oui.
Oui, je vais donc demander à monsieur Perrault et monsieur Ledoux donc d'échanger leurs impressions puisque on va ouvrir l'enveloppe dans quelques secondes.
Mais monsieur Ledoux.
Oui, bonjour monsieur.
Ah bonjour.
Je suis Guingamp, moi.
Eh si, c'est Célestin de Saint-Fiacre, là.
Ah oui, vous allez bien.
Mais yo, mais c'est ça qu'une surprise, là.
Ben moi aussi, j'étais pas au courant.
Mais moi non plus, c'est une surprise.
Ben moi, je suis tout ému.
Oui, moi aussi. Surpris, hein.
Ah oui, pour être surpris, je suis surpris.
Ah, moi aussi.
C'est la 37e.
Ah oui ?
Cérémonie des Molières du téléphone.
Ah bon ?
Je vais donc demander à nos deux lauréats de bien vouloir monter. Et nous rejoindre.
Mais montez où ?
Monter ?
Est-ce que vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez monter ?
Oh ben, on a un taboulet ici, mais...
Moi, j'ai un escabeau.
Ben, moi, je sur un petit taboulet ici.
Moi, je suis en train de monter sur un escabeau.
Allez, youp !
Oh, dites-moi.
Allez, je suis monté.
Voilà.
Est-ce que vous êtes prêt ? Je vous le rappelle que vous avez été jugé par des professionnels du téléphone, hein ?
Ah bon ?
Ah ben, ça, c'est super. Moi qui bégaye des fois un peu.
Ben, moi, j'ai un cheveu sur la langue, alors, vous voyez ?
Alors, attention. En direct, donc, sur France 2, TF1, FR3, Canal+, pour les Molières du téléphone, catégorie conversation.
Oui.
Sont nominés monsieur Perrault.
Perrault, oui. Perrault de Jalou.
Oui. Et monsieur Ledoux.
Ledoux Robert.
J'ouvre l'enveloppe.
Moi, j'ai un peu d'appréhension, oui.
Molière de la meilleure conversation 1993 au téléphone, monsieur Ledoux à égalité avec monsieur Perrault. Vos impressions ?
Je sais pas quoi dire.
Est-ce que vous êtes ému ?
Ah oui, alors.
Moi, je suis complètement retourné.
Ah ben oui, moi aussi.
Alors, bien évidemment, le Molière téléphonique, vous avez deviné que c'était une imposture de plus. Il se trouve que j'ai le bureau, moi, juste en face de celui de La Fesse.
C'est pour ça qu'il parle de débat.
Facile de travailler.
Ah non, mais c'est étonnant. Bon, c'est un tout petit bureau. Il y a une lumière rouge qui s'allume. Finalement, elle est allumée en permanence.
C'est Madame Ledoux.
Voilà. Ce monsieur prend le bottin, n'est-ce pas? Et puis, il va au pif, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, jusqu'à ce qu'il tombe sur le bon client. Hein,
ouais.
C'est ça.
Oh, il n'y a pas d'autre mot, ouais.
Voilà. Et finalement.
Sont indemnisés après ces gens-là, ces pauvres gens.
Oui, non,
ils
sont ravis. Les dames,
on a bien rigolé quand même. Ça va être bien français.
On envoie des trucs, c'est la tradition de la farce, quoi. Mais puis ça fait du bien, c'est le fou rire, c'est ça qui fait du bien.
Voilà. Le bottin, c'est comme ça que ça marche.
Est-ce que vous vous rendez compte, Marc, parce que moi je pense à autre chose, de la gentillesse de ces coups de téléphone. Et ça, c'est un point commun entre Blanche, La Fesse, qui pour moi aussi est un des plus forts, et Péchin à l'époque, c'est que ces gens-là ne se sont jamais payé leurs interlocuteurs gratuitement. Il y a déjà eu une méchanceté, ils se foutaient jamais de leur gueule, et il y avait beaucoup de gentillesse dans ces gags téléphoniques, et c'est ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que doit être un gag téléphone.
Il y a presque de la tendresse.
Oui, de la gentillesse, de la tendresse, il y a beaucoup d'humanité chez La Fesse, et c'est ce que je n'ai pas aimé sur un certain nombre d'humoristes que je ne citerai pas, qui ont fait scandale il y a pas longtemps, en appelant des chanteurs, choses comme ça, en se faisant passer pour ce qui n'était pas, et là, c'était pas drôle, parce qu'il y avait pas de gentillesse, et on cherchait à créer des scandales. Et
Les réactions des gens après, quand on leur disait, bon, c'est une plaisanterie, c'est un canular.
Ils se marraient. Sauf des politiques et des foudrages. Nous, à l'époque, on a piégé un certain nombre de politiques. Il y a ce qu'on appelle des bobineaux qui sont partis à la poubelle. Il y en a un célébrissime, Raymond Barre, arrivant au pouvoir, premier ministre, qu'on avait piégé. Parce que Stéphane Péchin, il avait un truc extraordinaire, il appelait en tant que général de Verdel. Et le général de Verdel.
Colonne de Verdel,
il abattait tous les murs. Il appelait n'importe quel ministère. Bonjour, c'est le général de Verdel. Ne quittez pas. Je voudrais le bureau du Premier ministre. Ne quittez pas. Et on lui passait tout de suite. Alors, Barre, on avait eu Barre au téléphone à l'époque. Je me souviens, on nous avait squeezé le truc. On l'avait totalement interdit. Mais il reste toujours dans la nature le Simone Veil. C'est-à-dire, on avait réussi à piéger Simone Veil à l'époque en direct. Mais les politiques, les foudrages, ils interdisaient que ça soit diffusé à l'antenne. Ils étaient fous de rage. Mais sinon, les gens qu'on piégeait, mais adoraient ça, ils se marraient, bien sûr.
Messieurs, vous revenez pour l'heure suivante, ouais.
Absolument.
Bon, bon, alors on se retrouve, mais les enfants d'Europe 1, c'est après le journal.
D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa Nummer 1.
This is Europe number 1.
À cette heure-ci, Maurice Sigel, je me retrouve au même endroit où j'étais hier soir, c'est-à-dire à environ 50 mètres de la barricade principale, au coin de la rue Pasteur et du boulevard La Ferrière.
Le jour de la fête à Juvon.
Ça va, mec?
Oui.
Un peu monde sont là.
Ah oui, on te regarde.
Ça me paraît comment c'est mou votre émission.
Oh là là! Oh, cette droite terrible de Manzon. Ouais!
Les pompiers sont descendus avec une corde pour vérifier si personne n'était tombé au fond du trou. Il n'y avait personne. L'écoulement. Merde, pardon. L'éboulement s'est produit pendant la nuit.
Mais dites-moi, de qui la mise en eau roulée ?
Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons.
Ah, bon. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.
Marc Tronchot.
Le réveillon des enfants d'Europe 1 se poursuit dans la bonne humeur. Pour votre plus grand plaisir, pour notre plus grand plaisir, nous feuilletons le bêtisier et l'anthologie du comique sur Europe 1 avec Xavier Collin, ancien grand reporter de cette maison, avec Robert Marcelin, qui s'est beaucoup occupé des journaux dans cette maison, des différentes éditions, avec Alexandre Marcelin, son frère aîné, qui lui a été réalisateur, un grand réalisateur également sur Europe 1, et Edmond Zucchelli, qui lui était journaliste et présentateur. Voilà, rien que des tristes. Pour m'accompagner pendant cette émission, on parlait de canulars téléphoniques tout à l'heure. Les journalistes n'étaient pas en retard en termes de mauvais coups au téléphone. On avait un spécialiste dans cette maison, en la personne de Jean-Louis Calderon, à qui on pense très fort parce qu'il nous a quittés, victime d'un char aveugle pendant la Révolution roumaine. Jean-Louis était un mec drôle, amateur de canulars. Il savait à la perfection imiter le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre. Il avait même réussi à piéger le cabinet du ministre. Et je laisse ceux qui connaissent l'histoire, vous comprendrez pourquoi, raconter comment un jour, Gaston, alias Jean-Louis, piège un pauvre journaliste tout fraîchement arrivé à Europe 1. Qui veut raconter l'histoire, Robert?
C'est-à-dire que Jean-Louis se met effectivement en cabine et imitait effectivement très très bien Gaston Defferre. Et Jean-Louis, à la fois, se permet d'appeler le ministère de l'Intérieur et arrive à se faire passer sans trop de problèmes pour le ministre. Mmh. Et on découvre, si on écoute l'extrait, que le ministre est en partie, on s'aperçoit que sa secrétaire en a profité pour prendre sa journée, ce qui n'est absolument pas prévu. Oui. Donc là, on sent très nettement que les gens au ministère appellent un petit peu au secours et sont très très embêtés d'avoir
un
nouveau ministre.
Il piège le journaliste.
Et dans un autre passage, il piège un jeune journaliste dont je vous laisse découvrir l'identité. Vous allez voir si vous nous proposez de réécouter cet extrait. Ça. Je crois que c'est assez sympathique.
Il est journaliste au service politique. Oui. Il est là depuis 3 semaines.
Il est très embêté.
Et son chef de service est parti, la secrétaire du chef de service est partie le proche collaborateur du chef de service est parti aussi, il est tout seul et on est à l'heure du déjeuner et voilà ce que ça donne.
Allô, oui?
Oui, Marc Tronchot, le service politique.
Oui, ne quittez pas, je vous passe le ministre, ne quittez pas.
D'accord.
Allô?
Allô?
Oui, est-ce que c'est monsieur Carrérou?
Monsieur Carrérou est absent pour le moment, Marc Tronchot, l'appareil.
Vous êtes du service politique Europe numéro 1?
Oui.
Ah, j'aurais voulu savoir pourquoi personne chez vous n'a couvert la remise de médaille à Saint-Cyr-Baudor que j'ai fait aujourd'hui.
La remise de médaille, où ça?
À Saint-Cyr-Vaudan. Cyr-Vaudan, c'est une promotion de la police nationale.
Ah, ça je ne peux pas vous dire. Attendez, ne quittez pas.
Allô? Incroyable de faire entendre le ministre de l'Intérieur.
Allô?
Oui,
oui. Oui, écoutez, monsieur le ministre, moi-même, je ne suis pas en mesure de vous donner une explication. Si vous pouviez éventuellement recontacter monsieur Carrérou, qui devrait être là dans l'espace d'une heure, nous on rappellera, si vous voulez.
Enfin, c'est quand même assez incroyable qu'il y ait une promotion à Saint-Cyr-Vaudan et qu'il n'y ait personne d'Europe supérieure qui vienne le couvrir. Enfin, je trouve que c'est scandaleux.
Oui.
De toute façon, vous avez couvert l'information.
Écoutez, je crois qu'il vaudrait mieux que vous ayez le chef du service politique en ligne. On vous rappelle dès qu'il arrive.
Mais vous êtes du service politique ou pas?
Oui, monsieur.
C'est bizarre.
Oui.
Bien, bah, écoutez,
je ne peux pas vous donner plus d'informations. J'étais moi-même en reportage ce matin.
Vous étiez où? Vous étiez où?
Où j'étais?
Oui.
Ah, moi, j'étais ailleurs, monsieur le ministre.
Vous ne pouvez pas me dire où vous étiez?
Hein?
Vous ne pouvez pas me dire où vous étiez?
Écoutez, ne quittez pas.
Il faut expliquer. Donc, Jean-Louis, ça n'est jamais passé à l'antenne. Donc, cela se passe, pour que les auditeurs comprennent bien, dans une cabine qui est en paroi vitrée et qui est totalement insonorisée. Ouais. Et il y a dans cette cabine, au moins, on est 4 ou 5. Xavier, tu étais là. Robert, quand tu étais là, moi, j'étais là aussi. Et donc, Jean-Louis, qui est au téléphone. Et donc, Marc ne se rend compte, évidemment, de rien, mais nous, on l'a en vision directe. Et donc, quand Jean-Louis décide de l'appeler, on voit Marc extrêmement ennuyé, mais très respectueux, vous l'aurez remarqué au passage, hein, c'est quand même le ministre de la République à qui il pense s'adresser. Et donc, Marc souffre 1000 morts, mais reste ferme sous la charge. Et donc, il ne voit pas qu'il y a à 10 mètres de lui 4 types enfermés dans une cabine qui doit faire 1 mètre carré et qui hurlent de rire. Et on n'entend rien derrière la paroi vitrée qui est insonorisée.
Et alors, fort de ce premier succès, Jean-Louis, qui était très, très, très doué pour les imitations, s'est dit on va aller plus loin. Et là encore, il y a prescription. Et donc, le soir même, Jean-Louis, se faisant passer pour le ministre de l'Intérieur, appelle le ministère en disant qu'il a perdu ses clés.
Je
vais perdre mes clés. Et alors, il tombe sur une standardiste, il dit, ah, monsieur le ministre, je vous passe quelqu'un du cabinet. Et de fil en aiguille, il dit, j'ai perdu mes clés, je suis dans la rue, je suis pris au repas, et je suis emmerdé, je ne suis pas rentré à la maison, je vais envoyer une voiture. Et il arrive une voiture. L'affaire marche tellement bien que le ministère de l'Intérieur envoie effectivement une voiture tout près d'Europe 1, dans un bistrot qui est à côté, pour amener les clés au ministre. Ça aussi, on l'a jamais dit, parce que c'est pas... Mais c'est vrai qu'il y avait cette capacité chez Jean-Louis d'imiter. C'était extraordinaire.
Xavier, tu as été, paraît-il, victime de ton propre canular. Tu peux nous raconter ça?
Alors là, j'ai un trou de mémoire.
Non.
Quel canular? C'était lequel?
Je pense que, Xavier, tu dois tout de même te souvenir qu'un jour, tu as eu le culot d'appeler le service dans lequel tu travaillais, puisque aux informations générales, pour annoncer que le cercueil d'un des frères Zemmour, qui avait été abattu quelques jours avant et qui avait fait la une de l'actualité, avait été volé, je crois, au cimetière du Père Lachaise.
Oui, on avait fait circuler le bruit selon lequel, effectivement, que les poignées en or du cercueil avaient été volées au cimetière, et on a fait circuler le bruit dans toute la presse parisienne. Et malheureusement, ça a marché au-delà de nos espérances, puisque au bout d'une demi-heure, il y avait effectivement toutes les voitures de presse qui était devant le ministère, la police ayant été intervenue, et même la brigade anti-gang était arrivée avec le commissaire Broussard, puisque c'était peu de temps après l'affaire du Telem. Donc je veux dire, à force de lancer des canulars, il y a des fois on pense que ça prend des proportions gigantesques, et c'était vrai.
Et on t'a demandé de couvrir?
Oui, j'y suis allé, bien sûr. Bien sûr. Et donc, c'est Michel Polaco qui était chef des reportages. Il m'a dit, oh nom de Dieu, il se passe un truc énorme, il faut absolument que t'ailles. Il paraît que. Et donc, j'ai dit, ah non, c'est pas possible. Et j'y suis allé, effectivement. Et donc, c'est le seul journaliste avec Jean-Louis Calderon à savoir que c'était totalement faux. Mais il y avait tout le monde. Donc, on a été obligé. Et la police est arrivée. Les autorités du cimetière ont été convoquées afin de constater que rien, Dieu merci, n'avait été ni volé, ni violé.
Alors, dans un autre genre, totalement barré, c'est comme ça que dirait la jeune génération. Il y a aussi Jean-Yann et Gérard Cyr. Qui veut dire un mot de Jean-Yann?
Jean-Yann, ça a été un des premiers impertinents sur l'antenne, je crois, avec Martin, puisqu'ils ont été en duo beaucoup, Jean-Yann et Martin. Mais Yann, c'est l'impertinence au début. Il y aurait peut-être pas eu Coluche, il y aurait peut-être pas eu tous ces gens-là s'il n'y avait pas eu Jean-Yann, qui a osé dire des trucs à l'antenne, invraisemblablement.
Gérard Cyr, c'est le conteur. Oui. Sans Gérard Cyr, on n'aurait pas raconté aussi.
Et c'est l'auteur, c'est lui qui écrivait pour Jean-Yann. C'est lui qui a écrit les films de Jean-Yann, Gérard Cyr, qui était une voix et un auteur.
Et Jean-Yann va au-delà de la provocation, c'est un véritable subversif.
dans l'humour, pour moi.
L'émission s'appelle Les Bouches-Trous, nous sommes en 63 sur Europe numéro 1.
Cet indicatif, chers amis, vous l'avez reconnu, c'est celui des Bouches-Trous de Jean-Yann et Gérard Cyr, qui se devait en cette journée commémorative anniversaire,
c'est bien vrai,
de célébrer Maurice Chevalier.
Le grand Maurice, notre maître à tous.
Oui, alors pour le célébrer, nous avons fait venir du Japon une très très grande vedette qui est là-bas l'interprète de toutes les chansons de Maurice Chevalier.
Très honoré.
C'est monsieur Musico Rama.
Vous prononcez mal. Musico Rama.
Ah. Musico Rama.
Musico.
Bon, je vais vous demander, est-ce que c'est possible d'avoir une interprétation d'un des grands succès de Maurice Chevalier chanté par vous?
Si vous voulez, je chante maintenant Yomaru no Kota.
Pardon?
Chanson de Maurice.
Mais quel est le titre français?
Valentine.
Valentine. Bon, eh bien, nous allons écouter Valentine par monsieur Musico Rama.
Musico Rama. Elle avait de tout petits potons, Yoko Tani. Elle avait des petits tétons qui me tâtisent à tâtons, Yoko Tani.
Je vais maintenant me tourner vers M. Sébastien Farigoul, votre accompagnateur, pour lui demander quel est le nom des divers instruments avec lesquels il vous accompagne, car c'est un véritable orchestre. À lui seul, vous jouez de combien d'instruments, monsieur?
Oui, ben, écoutez, il y a le piano, hein? Oui.
Shomago.
Le piano, oui.
Shomago.
Shomago, oui, bien sûr, Shomago. Et puis, ce qu'on pourrait appeler en France une casserole.
Non, n'est-ce pas? Faites tout.
Alors, vous avez voulu faire vos débuts, un hommage à Maurice Chevalier, et
en
vos
France,
adieux.
Je ne suis pas obligé.
Oui.
De me tuer.
Ah bon, en France, vous pouvez ne pas vous tuer.
Je me blesse.
Eh bien, avant de nous quitter, cher monsieur Musico Rama.
Musico Rama.
Nous allons vous demander de nous chanter une dernière chanson.
Oui.
Qui a pour titre.
Matukadang takum, tiemastia ugolia, kotien chepsui, antiok, apakutniok, lax maniok, nak tiang kostig la garen kolombia kunz, diek.
Ce qui veut dire en français...
Ma pomme.
Eh bien, nous allons écouter Ma pomme, donc, en japonais, chantée par Musico Rama. Alors, maintenant que votre tour de chant est fini, nous allons vous demander de bien vouloir procéder à ce harakiri.
Si vous voulez, et vous avez une fourchette?
Oui, s'il vous plaît, une fourchette.
Une fourchette. Voilà.
Merci.
Merci. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est obligé d'aller jusqu'au bout pour la radio. Non? Donc, juste la pointe. Non? Oui. Assez comme ça.
Jean-Yann et Gérard Cyr sur Europe numéro 1, la loufoquerie à l'état pur.
Et puis il faut aussi remercier Jean-Yann pour quelque chose, parce que ouais. Des films sur la radio, il y en a eu très peu.
C'est
et Jean-Yann a fait un film, et si on aime Europe 1 et les enfants d'Europe 1 et cette radio de l'époque, il faut aller louer ou acheter le DVD Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui a été écrit par Jean-Yann et Gérard Cyr, et qui est un mélange extraordinaire de l'ambiance qu'il y avait dans les années, fin des années 60, à Europe et à Radio Luxembourg à l'époque. Tout ce qui est dans le film est vrai. Tous les personnages sont vrais, aussi bien les informations.
C'est assez proche de ce qu'était la radio. On essayait les produits.
Ah oui, vraiment.
Quitte à avoir des boutons après.
Non, ça, on faisait pas ça. Mais les rapports entre les journalistes, les annonceurs, la publicité, tout ça, c'est dans ce film qui est.
C'était d'un tel réalisme que, soyons clairs, à l'époque, ça avait été très très mal accepté dans les milieux radiophoniques.
Sûrement, oui, bien sûr.
Parce que c'était effectivement tellement proche et on disait, il crache dans la soupe. Soyons clairs.
Ça faisait un peu le procès de la publicité aussi.
De la publicité et surtout des rapports qui pouvait y avoir à cette époque-là, en tout cas entre la publicité, voire l'information, puisque c'était de ça qu'il s'agissait. C'est de là qu'un certain nombre de conflits avaient éclaté. Donc c'était d'une impertinence folle. de faire
tout
ce film.
Tout était vrai, hein, globalement.
Oui, tout était vrai. Oh, et certains personnages étaient tellement criants de vérité que pas mal de directeurs de radio se sont évidemment très largement reconnus.
Dans le personnage de Bernard Blier, oui.
Dans le personnage de Bernard Blier, bien sûr, et dans le directeur d'antenne, bien évidemment.
Et au niveau des décors, c'était dans une autre radio pas loin d'ici.
On se retrouve dans quelques instants autour des enfants d'Europe 1 et de nos invités pour continuer à faire la fête. Une pause et on se retrouve à tout de suite.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 rigolent ce matin en cette veille de... Non, on n'est pas en cette veille de réveillon. On est à quelques heures du réveillon.
Quelques heures du réveillon.
Bonne année, Marc Tronchot.
Non, pas encore.
Bon, on a eu quelques grands allumés sur cette antenne. Il y en a certains qui se sont même fait passer pour fous au téléphone. Le fou qui veut louer son appartement et qui a mis une annonce, malheur à celui ou celle qui répondait à Pierre Péchin.
Allô ? Oui.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Je me permets de vous téléphoner suite à l'annonce pour un appartement.
Oui, alors vous êtes attribué à venir à l'appartement.
Oui.
Bon.
Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, enfin, je recherche un appartement étant donné que, enfin, c'est assez pressé. Oui. J'ai un bébé.
C'est mignon ça. Moi aussi. Moi aussi.
Bon.
Attendez, 12.
12
12 bébés. Ouais. Alors, vous voulez habiter quand?
Ce serait le plus rapidement possible.
Oui, demain. Avant-hier. Demain. Quand?
Maintenant.
Arrive, viens, tout de suite. Ah, il est très bien l'appartement.
Il est bien.
Oh, extraordinaire.
Il est à quel étage?
Il est au 24e étage. 24e. 24.
Et il se situe où exactement?
24. Là-bas, il se trouve là. Là où je suis. Je suis là, je suis dedans. Et je vous téléphone, je suis sous la moquette. Allô?
Oui. Attendez, quittez pas.
Allô?
Oui.
Allô? Oui, il est bien. Hein.
Vous avez quel numéro de téléphone?
J'ai 4000 numéros.
Non, mais votre numéro de téléphone.
Le numéro de téléphone de chez moi?
Oui.
Ah, le numéro de téléphone de... Moi, je ne donne pas le numéro privé. Parce que je suis un être connu.
Oui.
Et je ne donne pas, je travaille dans l'ambassade.
Oui.
Je suis attaché. Attaché.
Mais c'est vous qui avez...
À la caisse. Allô?
Oui.
C'est pour l'appartement?
Oui, c'est ça.
Bonjour madame, je suis intéressé par l'annonce.
Pardon?
Comment?
C'est moi qui vous appelle.
Ah, c'est... Allô?
Oui.
Eh bien, 18 douches. 22 douches. 18 douches, pardon. Il y a 24 salles de bain, 19 chambres, un terrain de foot. Une piscine, tout un ascenseur. Les grands magasins. On va avec des chaussures. Est-ce que vous gonflez les ballons? Ballon rouge. Allô?
Oui.
Comment?
Mais qui êtes-vous exactement?
Qui êtes-vous?
Non, vous.
Qui vous? Qui moi?
Oui.
Moi. Hey. Moi, c'est moi, toi, tais-toi. C'est à quelle heure vous téléphonez? Quelle heure? Vous appelez à quelle heure vous appelez?
Pardon?
À quelle heure?
Quelle heure?
Quelle heure il est?
J'ai appelé, il était
6h15. 6h15. Appartement? Appartement. Qui c'est qui chante?
Pardon?
Hein? Qui c'est qui chante?
Personne.
Ça vous intéresse l'appartement?
Bon.
Ça vous intéresse? S'il vous plaît? Merci.
Et quelques mots, Alexandre.
Alors, il faut connaître les coulisses de la genèse de ça, parce que c'était une série de coups de fil immobiliers. C'est nous qui avions passé une petite annonce dans la presse. Et c'était les auditeurs. Alors, on avait passé une petite annonce totalement incongrue. On disait, voilà, alloué appartement, je sais plus qui, très, très bel appartement, 4 pièces, 500 francs par mois. Et on a eu des milliers de coups de téléphone, et là c'est les auditeurs qui nous appelaient sur un numéro de téléphone qu'on leur avait donné, qui arrivait en studio ici, et on a eu énormément, ça a duré plusieurs jours, de coups de téléphone dans ce genre-là, et ça a été un délire incroyable.
Et donc ils prenaient un personnage différent
à chaque fois.
Là, il y a eu le fou.
Il y a eu le fou, il y a eu le forcené, je me souviens, il y a eu l'arabe, il y a eu l'africain, parce qu'à l'époque Péchin prenait les accents arabes africains, on l'a jamais taxé de raciste, parce qu'il ne l'était pas. Aujourd'hui c'est plus difficile à faire. Et je dois aussi rendre hommage à l'époque
aux directions d'Europe 1, parce qu'on nous a foutu une paix absolument royale pendant tout le temps où on a fait cette émission avec Châtel et Péchin. On était dans un petit bureau, personne n'écoutait nos enregistrements avant, on allait les diffuser à l'antenne, on se marrait, et à l'époque c'était René Kletman, qui est plus là aujourd'hui, dont on peut saluer amicalement la mémoire, qui dirigeait Europe. Personne nous a jamais rien demandé, on avait une liberté extraordinaire de travail dans cette maison.
Alors, quand on avait... Oui, pardon,
c'est la liberté qui a été donnée à Coluche, hein, au début.
Ouais.
Après, il y a eu des tas d'ennuis. Mais au début, Coluche faisait absolument ce qu'il voulait. C'était génial.
Ouais. Quand on avait Péchin dans une émission, on pouvait s'attendre à tout. Le moindre faux pas, le moindre dérapage, le moindre mot évocateur. Et c'était la catastrophe tout de suite. Ce jour-là, le présentateur du Flash, c'est Jean-Pierre Blanzac.
À Beyrouth, au Liban, la situation s'est bien améliorée. Les combats avaient repris il y a 2 jours entre chrétiens et musulmans. Ils se sont calmés. Cette accalmie relative survient au moment de l'arrivée de l'ancien Premier ministre Maurice Couve de Murville. Pierre Péchin, quand on parle de Maurice Couve de Murville, en principe, personne n'a envie de rire, dans la mesure où c'est un monsieur très sérieux, dans la mesure aussi où il est chargé d'une mission de conciliation. Monsieur Couve de Murville a d'ailleurs le sens de la nuance, il ne veut pas parler de médiation. Je suis chargé d'une mission d'amitié. Mais on est parti. Et voilà, faut que je me rattrape tout seul. Je suis donc chargé d'une mission d'amitié et d'information. Yvan, a-t-il déclaré à son arrivée. Bon, ma première histoire un peu plus drôle que celle de monsieur Couve de Murville. Puis ce qui est grave, c'est quand on arrive avec Péchin, qu'on a un petit bout de fou rire, il arrange drôlement les choses. Je suis en train de chercher ce qui pourrait le bon me faire rire, mais j'ai l'impression que tout ce que je peux dire. Eh bien, disons qu'un. Oh non, bon, je n'y arriverai pas, de toute façon, ce serait pas grande importance. Je suis étonné à l'état des courses, généralement, c'est pas triste non plus. Les courses à Auteuil avec la 6e, le prix Nogent, tous les chevaux ont couru. Premier le 602, Jaguar, Vichy, 9 francs 40 gagnants. En France 60 placés. Deuxième le 603, Floirac, 2 francs 10. Troisième le 601, Méditerranéen, 1 franc 50. Je peux même pas tendre ma feuille à Péchin pour vous donner la 7e. Il est encore sous la table, lui. Je voulais vous faire profiter d'une bonne histoire d'un plaisancier dont la vedette avait été en feu au large de Toulon, qui avait été sauvé par un sous-marin italien. Mais je crois que mon histoire est tellement longue que j'y arriverai pas. Je préfère vous lâcher en espérant que Pierre Péchin m'arrive à articuler 3 mots et vous dire qu'à 18h... C'est Patrice Belin qui vous présentera le journal.
Voilà un flash qui est resté célèbre et c'était facilité, Robert, par la proximité du journaliste et du meneur de jeu.
Oui, c'est ce qui était d'ailleurs terrible pour le journaliste qui venait faire le flash. C'est-à-dire que malheureusement pour lui, le journaliste venait et s'installait pour présenter son flash dans le même studio que Pierre Péchin. Alors que généralement, les journaux qui étaient un peu plus longs, les journaux se faisaient de manière totalement séparée dans un studio très spécifique. Alors que là, le journaliste se retrouvait avec Péchin, toute l'équipe de Péchin. Et je crois que l'ensemble de l'équipe était absolument sous la console, morte de rire, et faisait tout, évidemment, pour que ça dégénère.
C'est ce qui s'est passé avec Coluche.
Oui, et quelques années plus tard, voilà, moi, je présentais les flashs pendant l'après-midi où Coluche était à l'antenne, pendant les après-midi. Et donc, on s'était mis d'accord avec Coluche. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 ou 3 dérapages. Et même Coluche, qui était très respectueux du travail que faisaient les journalistes, m'avait dit, bon, écoutez, moi, on va faire un truc parce qu'il pouvait plaisanter, et puis l'information, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire que parfois, elle est tragique aussi. Et enchaîner avec une information tragique derrière un gag de Coluche, c'était pratiquement infaisable. Donc on s'était mis d'accord avec un code gestuel, c'est-à-dire j'arrivais pouce en l'air, ça voulait dire on peut déconner jusqu'au bout, pardon pour l'expression, j'arrivais pouce en bas, c'était coup de froid, et alors ça s'entendait à l'antenne, c'est-à-dire d'un coup des 30 dernières secondes, Coluche mettait un grand coup de frein et me lançait annoncer le flash d'information de la manière la plus sobre possible.
Alors, est-ce que tu as mis le pouce en l'air ou en bas quand tu as annoncé le mariage de Coluche et de Le Luron? Parce que ça, c'était aussi un événement journalistique qui avait été couvert comme un événement, puisque on m'avait demandé de faire le reportage dans la rue sur le mariage de Coluche et Le Luron, exactement comme si c'était un vrai mariage. Alors, en tout cas, avec des vrais témoignages.
Et avec 2 personnages qui commençaient à prendre une importance politique, ce que les politiques n'appréciaient pas du tout.
Pas tellement.
Alors, chez les journalistes, il y a une certaine propension à faire les questions et les réponses qui peut également prêter à sourire, parce que tout est prétexte à gag. Robert Chapat sur Europe numéro 1 pouvait assez facilement se laisser aller à ce genre de choses.
Henri de Villard, actuellement pour vous, c'est la série noire et je ne peux pas faire de mauvais jeu de mots parce que vous portez une combinaison noire, mais on pensait que vous alliez profiter de cette descente du Hanencam disputée chez vous, à Megève, sur votre piste. On pensait que vous alliez profiter de cette descente pour passer en tête de la Coupe du Monde et puis vous terminer à la 9e place. à 1 seconde 87 centièmes de Bernard Russi, le vainqueur, et vous ne marquez aucun point pour la Coupe du Monde. Alors, que faut-il en conclure? Que désormais, on doit compter davantage sur vous dans les slaloms et non plus en descente, ou alors que les descentes ne vous favorisent pas, ce sont des tracés trop particuliers qui avantagent surtout les poids lourds. On s'aperçoit en regardant le classement que deux hommes seulement pèsent moins de 80 kilos parmi les 10 premiers. Bernard Orcel qui est quatrième, qui justifie actuellement sa position de meilleur descendeur français, et vous, Duvillard, vous pesez 67-68 kilos.
Oui, à peine, je crois, 65 kilos, mais enfin...
Contre 82 Bernard Russi ou 87 à Fogler, les deux premiers.
Oui.
Alors d'après vous, est-il normal d'humaniser les descentes en quelque sorte? Vous avez eu avant-hier cette réflexion extraordinaire. Quand on vous demandait ce que vous pensiez de la piste, ici, vous avez répondu: je peux simplement vous dire que la France compte maintenant 3367 mètres de plus d'autoroute. C'était parce que c'était trop dangereux. L'année dernière, on a eu à déplorer la mort de Michel Bozon. Alors il faut faire un choix, ou des pistes rapides qui avantageront toujours les poids lourds, les hommes qui sont lancés à grande vitesse, à 100 à l'heure, puisque c'est la moyenne aujourd'hui, ou alors des pistes techniques, mais qui restent dangereuses, et tout le monde ne s'appelle pas Duvillard. Puis, rien n'est perdu.
Non, pas du tout.
Bravo. Ça, c'est tout Henri Duvillard. Battu, mais confirmant quand même le moral.
le record de la question la plus longue et de la réponse la plus courte.
Extraordinaire. Hein. Edmond, tout à l'heure, on se disait hors micro quelque chose qui a changé, ah je oui, crois, oui, qui
oui.
a changé.
Oui, parce que moi, quand je suis rentré à Europe 1, j'étais fasciné par cette coupure générationnelle. C'est-à-dire, au milieu des années 80, il y a vraiment une ligne qui partage les jeunes journalistes qui sont plutôt au minéral à midi et qui mangent plutôt des carottes râpées. Et donc, il y a les grands anciens. Et les grands anciens nous regardent un peu effarés. Et je me souviens d'André Arnaud, donc, avec qui j'avais des rapports un peu
privilégiés. C'est une tradition, le verre.
André,
le verre de whisky.
André faisait, il faut le, maintenant, je pense qu'on peut le dire, et pas faire insulte à sa mémoire, c'est qu'il présentait Europe Midi avec un grand verre de whisky. Et je suis persuadé qu'il avait besoin de ça pour avoir le courage d'aller à l'antenne, parce que André, lorsqu'il faisait un journal, le faisait comme si ça allait être le dernier journal de sa vie.
Mais il disait toujours que c'était coupé d'eau, hein.
Oui, il le disait.
Oui, voilà.
Les enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
On a bien commencé le réveillon avec les enfants d'Europe 1 et nos invités. De la régie où vous trouviez Alexandre ou Robert Marcellin, vous avez souvent provoqué le fou rire des journalistes qui tentaient de faire honorablement leur métier.
Oui, moi particulièrement.
C'est par exemple
Non, j'ai pas d'exemple.
Une vocation.
Ouais, non, c'était tout ce qui pouvait faire marrer le journaliste dans des moments très sérieux. On essayait de les planter, vraiment. Oui.
On l'a énormément
Mais
provoqué.
Il faut aussi se souvenir d'une chose. Moi, je suis rentré à Europe 1, j'avais 19 ans. On se retrouvait tout d'un coup, une bande de copains, on avait tous entre 20 ans et 25 ans. On faisait tous très professionnellement notre métier, mais on était quand même globalement des gamins. On avait envie de se marrer. On était dans un endroit incroyable où se fabriquait l'actualité. Mais c'est vrai que tout était prétexte aussi à essayer de planter les autres.
Xavier. En même temps, avec toute cette jeunesse qui amenait sa vivacité, son talent, il y avait des personnages éminemment plus aînés que nous, respectés, respectables. Et j'en pense à deux personnes, par exemple, qui nous ont appris beaucoup, Frédéric Potcher et Albert Ducrot. Et c'était des personnages dont on peut à peine aujourd'hui imaginer l'importance, des gens qui étaient connus, notamment par la voix. Et la première chose, moi, que Frédéric Potcher m'a dit, ça a été le premier conseil à Europe 1, il m'a dit, en plus, on est tous les deux des Vosges, il m'a dit: je vais te dire une bonne chose, dans ce métier, ce qui compte, c'est pas d'avoir de talent. Mais non, tout le monde s'en fout du talent. Ce qu'il faut, c'est avoir du talent à heure fixe. Ah, et c'était exactement ça. C'est toute l'histoire de la radio. C'était Frédéric Potcher.
Et parmi les fous rires dont je parlais à l'instant, il y en a un que j'ai choisi parce qu'il est très beau, et puis c'est quelqu'un que j'aime bien en plus. C'est le fils de son père, c'est Stéphane Paoli. Et un beau matin, il va se laisser complètement aller. C'était le journal de 6 heures qu'il était supposé diriger ce jour-là. Et c'est un journal qui va avoir une couleur un tout petit peu particulière.
Il est 6h04 et Stéphane Paoli ne saurait tarder à revenir, n'est-ce pas, mon cher Stéphane? Oh ben oui, ça va aller mieux.
Mais oui, non. Pardonnez ce fou rire matinal, mais d'autant que ce que j'ai à vous dire, finalement, est plutôt une bonne nouvelle, puisque dans le projet de budget 86, une baisse des impôts de...
Ah, c'est l'augmentation de l'hôtel qui lui fait ça.
De 3%. De 3% est envisagé par le ministre de l'économie et des finances. Monsieur Bérégovoy, en l'état actuel du budget. Voilà, ça, c'est le sérieux va revenir un petit peu. Le projet de pont de l'île de Ré, suspendu par décision de justice. 11 associations de riverains et d'amis de la nature obtiennent satisfaction. Je crois qu'on va avoir beaucoup de... énormément de difficultés à poursuivre ce journal. Non, les, bah, écoutez, donc 11 associations de riverains et d'amis de la nature obtiennent satisfaction. Les partisans du pont entre l'île et le continent vont probablement faire appel auprès du Conseil d'État. Mais...
Bon, Stéphane, on fait une page de pub et on se retrouve tout de suite.
Voilà,
après.
Exactement, je crois que ça ira mieux.
Voilà, Stéphane Paoli et Gilles Schneider.
Ah, c'est Gilles.
Oui.
On cherchait la voie.
Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Edmond. Hein. Quand on commence, on ne peut plus s'en tirer.
Surtout Stéphane. Spirale. Stéphane qui a le caractère gay. Oui. C'est-à-dire que donc, il aime bien rire, il adore rire, il adore la plaisanterie. Et quand il part, alors particulièrement lui, Stéphane, on l'arrête plus.
Retour au programme. Jean-Yves Lafesse, on l'a écouté tout à l'heure, mais on va s'en remettre une lichette tellement c'est bon. Et puis, parce que vous êtes formidable, comme Belmar aurait pu le dire, parce que c'est vrai, vous êtes formidable. Ce qui va suivre le prouve. Il y a des plombiers sympas, il y a des auditeurs formidables.
Bonjour.
Bonjour madame, c'est le dépannage plomberie.
Oui.
Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil.
Oui.
Germaine, j'ai mon évier bouché.
Alors, Ledoux, c'est accroché ou pas?
L'évier?
Non, votre nom.
Ah, Ledoux, oui.
C'est accroché, hein?
Oui, c'est accroché. Alors, Parvis de la Défense.
Oui.
Tour Gentil.
Oui.
43e étage.
43e étage?
Ben oui.
Avec ascenseur, oui.
Sans ascenseur.
Non, vous rigolez, là.
Non, je rigole pas. C'est sans ascenseur.
Attendez, hein. Vous ne quittez pas, madame. Hein.
Allô?
Allô?
Oui.
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour. Où est votre problème?
Vous êtes qui?
Ben, le directeur technique.
Ah, d'accord. Ben, moi, j'ai pas de problème. Simplement, je vais savoir à quelle heure il venait.
Oui, mais c'est au 43e étage?
Oui, c'est ça.
Oui.
Sans ascenseur, oui.
Sans ascenseur?
Oui.
43 étages sans ascenseur?
Oui.
Voilà.
Il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de problème.
Non, mais 43 étages, il faut les monter à pied, madame. Hein.
Mais moi, je le fais bien, monsieur.
Vous le faites bien?
Ben oui.
43 étages à pied?
Ben évidemment, je fais mes courses une fois par semaine.
Et vous avez un évier bouché?
Oui.
Maintenant, pourquoi il n'y a pas d'ascenseur dans votre immeuble?
Non, c'était un immeuble fonctionnel.
Oui.
Et puis les bureaux ont déménagé.
Oui.
Moi, j'étais la concierge et m'ont relogé là-haut.
Au 43e étage?
Voilà. Et ils ont muré l'ascenseur puisqu'il n'y a plus personne.
Et vous habitez dans un immeuble de 43 étages toute seule alors, madame?
Oui, il y a mon fils qui vient me voir tous les jours.
Et bon, t'as pris l'adresse de la dame là parce que. Oui, c'est... Alors l'évier, il est bouché. Moi, ouais, je vois un gars, hein, Lionel, tu veux bien monter 43 étages toi à pied? Bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver quelqu'un qui veut bien monter 43 étages à pied.
Vous êtes gentil, monsieur.
Oui.
Alors c'est très simple, hein. Quand il arrive au 38e étage, il change d'escalier. Il prend l'escalier C, parce que l'escalier est muré, hein.
Au 38e étage, il faut changer d'escalier?
Oui.
Et prendre l'escalier C?
Voilà. Alors, avec l'escalier C, c'est un escalier qui descend jusqu'au 5e, hein.
Et monter 5 étages?
Non, descendre.
Comment on descend jusqu'au 5e?
Oui, parce qu'ils ont muré après.
Oui, alors, il faut descendre jusqu'au 5e étage?
Voilà.
Une fois qu'on est monté au 38e?
Oui, c'est ça, mais c'est pas par le même escalier, hein.
Non, mais attendez. On monte 38 étages.
Voilà.
Voilà. Et après, on descend.
Oui, jusqu'au 5e.
On descend jusqu'au 5e étage.
Oui, alors, faut pas qu'il se trompe parce que c'est dans le noir.
Oh, c'est dans le noir?
Ah oui, il n'y a pas de lumière, hein.
Comment il n'y a pas de lumière, y a... Là, c'est une galère, ça, hein.
Mais moi, je le fais bien, hein.
Oui, je sais, mais si vous avez des bons yeux, il faut que je trouve un plombier qui a des bons yeux, hein. Vous savez, monter 38 étages dans le noir...
Oui, mais il peut compter dans sa tête, hein. Moi, je compte, hein.
Comment il va compter dans sa tête? Ben, déjà, il faut qu'il y arrive, hein. Il faut pas que je trouve un plombier cardiaque, moi, hein. Vous vous rendez compte, 38 étages dans le noir? Non, mais moi, je vous tire mon chapeau, madame, hein. Vous êtes courageuse, hein.
J'ai 73 ans.
73 ans. Parce que à 73 ans, monter 43 étages, je redescends 38 et redescends de... Attendez, il faut que je fasse le calcul, là. Il faut redescendre 33 et sans lumière. Et c'est vraiment noir, alors?
Ah oui, c'est noir.
C'est noir, il faut amener une lampe...
Non, il y a une rampe, hein.
Il y a une rampe?
Oui, enfin, il y a une rampe, tous les étages impairs.
Putain, il faut que j'appelle Belmondo, moi, hein, ça irait plus vite avec un hélicoptère et qu'il me jette directement dans votre fenêtre. Mais alors, à chaque fois que vous montez 38, vous descendez 33 et vous remontez 40...
Voilà.
43.
Oui, c'est ça.
Ça fait 80 étages dans tout ça.
81.
81. C'est pas possible. Mais c'est inhumain ce qu'ils vous font, là. Putain, vous vous rendez compte, c'est une après-midi qui est foutue pour un plombier. Et c'est vraiment bouché, votre évier, hein.
Ah oui, il est bouché, il refoule, hein.
Il refoule. Ok, s'il n'y a pas de voisin, il peut refouler, hein, il n'y a pas de problème, hein.
Ah oui, mais enfin, c'est pas...
Bon,
Alors, que je vous dise comment faire quand il arrive. Hein.
Oui.
Quand il est en bas, il y a un interphone, il sonne et je descends lui ouvrir.
Vous descendez vous-même?
Oui, je vais descendre lui ouvrir.
Je ne vais pas vous faire descendre quand même qu'à 45 étages, 43 étages,
mais
et remonter 81 à 73 ans pour lui ouvrir. Pourquoi il ne marche pas l'interphone?
Mais non.
Bon, alors vous faites une blague, qui vous êtes? Vous êtes qui?
C'est une blague pour Europe 1.
Pour un rabbin?
Non, pas pour un rabbin, pour Europe 1.
Pour Europe 1?
Pour un rabbin.
La peste, un salaud.
Voilà, là on est tous les quatre morts de rire. C'est vrai,
quel talent.
Un grand, grand hein, du canular.
Alors, un, plus c'est gros, plus ça passe. Et deux, qu'est-ce que les gens sont gentils.
La générosité.
Mais c'est extraordinaire.
C'est formidable. Souvent observé, Alexandre.
Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr.
Et quel travail ça représente en plus que pour la fesse. Parce que, encore une fois, pour un comme ça, il en a peut-être enregistré 25 ou 30 derrière. Mais c'est un maître en blague téléphonique.
Hein. Ce qui me fascine en cabine, c'est la concentration. C'est sa concentration. C'est-à-dire que ce qu'il cherche, elle est là, sa générosité. Il cherche à comprendre l'autre, parce que là, on a le patron d'une entreprise de plomberie qui est tout sauf idiot. Comment il arrive à le faire basculer petit à petit? Comment il tire, il lâche ses informations? Il faut être en empathie avec l'autre, et là, il faut une intelligence humaine exceptionnelle.
Alors, les comiques sur Europe 1, il faut aussi rendre hommage à leurs partenaires, puisqu'il y a une grande tradition des comiques avec leurs réalisateurs à Europe. Et je voudrais dire un petit mot là-dessus. Il y a eu un très grand réalisateur à Europe qui s'appelait Martial Courtois, et toutes les grandes émissions humoristique de l'antenne, que ce soit Coluche, même beaucoup plus ancienne, doivent beaucoup à Martial Courtois qui était derrière. Et les réalisateurs sont des gens, que ce soit Martial Courtois à l'époque, Marc Garcia, Christian Geldresch, Michel Brier, ça c'est les vrais grands réalisateurs d'Europe qui ont toujours été derrière leurs animateurs, derrière les journalistes et qui ont vraiment fait beaucoup beaucoup de boulot pour Europe.
Et on peut aussi parler de la mise en valeur de ces comiques par d'autres personnes, et
particulièrement
notamment Julie.
Ouais. Qui fait le matin, en ce moment d'ailleurs, sur Europe, et qui a toujours fait, mais qui le fait de mieux en mieux, je trouve. Je trouve qu'elle s'est révélée avec Laurent Gérard, et j'espère qu'on va entendre peut-être du Gérard. Et le matin, en ce moment, Julie, elle est plus qu'une animatrice. En fait, c'est le premier auditeur, elle rigole, et elle aide les comiques qui sont venus sur Europe, et je pense qu'ils lui doivent beaucoup, beaucoup.
Une pause, et on se retrouve avec les enfants d'Europe.
Les enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
On parlait générosité, il y en a eu, et combien sur cette antenne, particulièrement grâce à un monsieur qui s'appelait Coluche, sans qui une émission comme celle-ci n'aurait pas de véritable sens. Il y a des témoignages sur ce monsieur. Nous, on l'a tous connu, on l'a tous côtoyé. Est-ce qu'on s'est représenté à ce moment-là ce qu'il était et toute la générosité qu'il portait en lui? Je suis pas sûr.
Non, au début, je crois qu'on n'a pas compris. Moi, j'ai vu arriver Coluche. Au début, soyons clairs, on le considérait comme un grossier personnage.
Mm-hmm. Ah
parce
bon
qu'il avait, oui, tout à fait. Au début, il jouait là-dessus, et ce n'est qu'avec le temps qu'en tout cas, au sein de la rédaction, dans laquelle il venait souvent, on l'a dit, il venait avec son dictaphone, il piquait des idées, il nous demandait nos avis, etc.
D'ailleurs, il y a ceux qui viennent et ceux qui viennent
ensuite,
pas.
Ensuite, on s'est aperçu que c'était Coluche, d'abord un excellent clown, deuxièmement un homme avec un très grand cœur.
Qui s'intéressait à l'actu, en plus, terriblement.
L'actu énormément. Il s'en nourrissait, il savait parfaitement en jouer, se moquer de nous, mais toujours avec cette générosité qui reste.
Et même quand il faisait de la publicité pour ses copains sur l'antenne, il était drôle. Colu sur Europe.
Dis donc.
Oui.
Faut me faire cuire chope, Paulette m'a demandé.
Ah. Si elle voulait la cuire chope. Est-ce qu'elle voulait la cuire chope? Si elle voulait un blouson d'aiguille.
Oui.
Alors admettons, le blouson d'aiguille, vous l'avez, ça la coûte 1300 francs. Mais chez la cuire chope, ça la coûte 600 francs. Alors, vous allez me dire, évidemment. Mais où est-ce que ça l'est, c'est lui qui est celle-là, la cuir choupe? Eh bien, je vais vous le dire. Ça l'est très exactement, à 13, à rue de Ravelet.
Il le dit mieux qu'au début. Ça, c'est vrai, t'as fait des progrès.
Ah ben, je l'ai travaillé, la Ravelet, parce que les gens nous ont écrit. Où est-ce que c'est, la 13, à rue de Ravelet? Alors, on a dit, ça n'existe pas, ça. Pas du français, mais c'est vous qui l'avez dit à la radio. Tu sais, t'as les gens au téléphone après téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est, le 13 arrêt d'Aravalet? Ça n'existe pas, c'est une connerie. Mais non, c'est vous qui l'avez dit. Mais monsieur, c'est la 13 à Rie des Rivoli.
Voilà.
Elle est Rivoli. À la métro Saint-Paul. Combien de Paul? Saint-Paul, voilà, je le sais. Cuir choupe, 600 francs le blouson, au lieu de la 1300.
Et il n'y a pas que des blousons, il y a des jupes droites, il y a des...
Il y a des jupes droites, il y a des jupes gauches, il y a de tout. Tous les partis sont représentés. Et les partis au chaud, il y en a assez fourré. Hein. Vous l'avez le slip, cuir choupe, à la guire, avec la fourrure. Pour ceux qui n'ont pas le poil. Il y a les déshérités qui n'ont même pas le poil. Elle comprend que c'est l'expression, ça gelait la couille. C'est là, ça la vient de là. C'est les plus déshérités d'entre nous qui n'ont même pas le poil. Nom de Dieu, bordel. Alors, excuse-moi. Et maintenant, justement, elle a agrandi le magasin pour la faire le rayon caleçon fourré. Caleçon fourré, capitaine pas bon.
Coluche et Maryse, elles aussi, on parlait de Julie tout à l'heure.
Voilà, Maryse.
Elle aussi, Maryse, elle mettait bien en valeur les Coluche ou les Madou. Il y en a un autre qui a marqué l'antenne quelques années plus tard, c'est Laurent Gérard. L'an 2000, pour vous tous, c'est sûrement un bon souvenir professionnel, pourquoi pas. Pour Laurent Gérard, ça s'appelait En route vers l'an débile et c'était sur Europe 1.
Le grand sujet du jour, c'est la une de VSD avec ce titre, Le plaisir est dans le couple. Pas pour tout le monde, que s'est-il passé dans votre couple avec Lionel Jospin, monsieur le président ?
Madame Julie, ça devait bien arriver, on s'entendait trop bien. Sur le Kosovo, on était d'accord, plus les bombes tombaient, plus nos sondages montaient. Sur l'Europe, on était d'accord, on allait à tous les sommets, main dans la main. Et puis... La Corse est arrivée. La Corse est arrivée. Ça commence à faire chier, la Corse. Comme la droite s'est lamentablement plantée, pléonasme, il a bien fallu que je dise quelque chose pour essayer de réparer le beans. Et là, Tristounet l'a mal pris. Il est ombrageux, le Jospin. Il dit que c'est lui qui se tape tout le boulot. Mais VSD le dit, pour revenir à cette une de VSD. VSD le dit dans son sondage sur le désir. Si un homme voit son excitation retomber à la suite d'un commentaire maladroit, mais fait comme si tout allait bien, son désir ne tarde pas à renaître. En clair, au bout du compte, il y en a un des deux qui l'aura dans le cul.
Jack Lang, vous étiez l'invité de Jean-Pierre Alcabache tout à l'heure. Que pensez-vous du couple, vous ?
Quelle belle idée, mémé. Le couple, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Déjà avec Monique, on fonctionnait comme le dit VSD. L'amour au téléphone comme escapade romantique. Elle appelait Michel Drucker et je faisais ses émissions. C'est vrai que c'est excitant le téléphone. Regardez François Mitterrand, comme ça l'excitait de s'amuser avec. D'ailleurs, avec François Mitterrand, nous formions déjà un très beau couple. J'étais son jouet dans ses doigts pervers. Je me pliais à tous ses désirs. Fais-moi un opéra grand fou, je lui faisais. Viens grimper sur l'utré, je grimpais. Et là, voyez-vous, après un essai, je ne pourrais pas vivre avec François Hollande. Dans VSD, on nous parle du sexe comme thérapie. Moi, vous savez, c'est plutôt la poésie. En effet, tout le monde le sait, la muse m'habite.
Il y avait longtemps. Dans VSD, toujours, l'inventaire des excitants de l'amour. Par exemple, la lingerie pour changer de peau. Édouard Balladur.
C'est vrai que passé un certain stade, l'habitude émousse le désir dans le couple. Marie-Jo avait un peu marre de me voir devant la télé en slip kangourou.
Oh non.
Je suis donc passé depuis quelques mois au calfouette en soie sauvage qui me sied mieux à la verge.
Oh.
Et croyez-moi, on n'a plus le temps de regarder la télévision.
Il est fou.
Oui, c'est pour vous.
Non, mais...
oui, ça vous excite ou vous avez perdu les pédales? Remettez-vous.
Dans les excitants toujours.
Oui.
VSD nous propose de faire la vaisselle en préliminaire. Robert Rue.
Ah, ça c'est monnaie courante chez les U. Hein. On partage la tâche. La vaisselle au camping, nous caravanous, c'est Bibi qui l'a fait. Je pars avec ma cuvette et mes baloches qui dépassent de mon boxer short.
Non.
Et là, quand je prends la gratounette, Madame U sait très bien qu'il n'y a pas que le plat à gratin qui va être écuré bien à fond. Hein.
Voilà, parmi les comiques qui ont marqué Europe 1, je le disais tout à l'heure, il y a ceux qui étaient intégrés, mais alors complètement intégrés dans la rédaction, et puis il y avait les autres. Coluche et Laurent Gérard, ils étaient tous les deux complètement intégrés.
Voilà, et moi ce qui m'a toujours frappé, c'est le décalage qu'il y a entre ces hommes. Vous venez d'entendre ce qu'ils disent. devant des centaines de milliers de personnes. C'est-à-dire, d'un coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'explosion, de la subversion, de l'agressivité,
de la pornographie
du terme, et parfois même, voilà, pour que ça soit drôle.
Et en tout cas, tous les provocation.
La provocation, ça c'est clair. Ouais. Et puis après, vous aviez les mêmes hommes, en tout cas pour nous, qui les voyons passer d'un côté et de l'autre de la vitre, qui étaient dans la rédaction. Je revois Coluche, les mains en avant, sur le thème, parce que quand Coluche rentrait dans la rédaction, c'était un petit événement. Hein. Bon, ouais. On était tous là, on voulait discuter avec lui, c'était quelqu'un qui nous attirait. Et Coluche avait conscience d'être cette force d'attraction et nous renvoyait quasiment des mains en disant non, ne vous mettez pas en retard pour le journal. Bon, alors on restait là parce qu'on avait toujours un quart d'heure pour passer un quart d'heure avec Coluche et c'est là qu'il notait nos petites phrases.
Vous rappelez le sketch de Coluche sur on s'autorise à penser tout à que tout ça vient de la rédaction de Robin. Voilà. Tout vient des
et
discussions.
Alors, au bout d'un quart d'heure, c'est-à-dire quand il était en confiance et quand il était un peu chaud, il suffisait que le directeur de l'information arrive, se joigne à nous ou un autre représentant de la hiérarchie et puis d'un coup on sentait le pétard qui allait bientôt partir et puis paf, une petite pique et puis une autre petite pique et puis après c'était, ça y est, c'était parti et le personnage redevenait la bête de scène qu'il
était. Et Gérard, c'était pareil, il était jamais aussi bon que quand il était entouré par des journalistes à qui il demandait de venir d'ailleurs pendant sa prestation le matin et il demandait aux gens de la rédaction qui n'avaient rien à faire de venir comme un public dans le studio et ça le rendait je pense meilleur et ça c'était aussi quelque chose que la rédaction
j'ai
adorait.
C'est ce qui se passe encore le matin avec Antelou hein, où j'entends les journalistes qui gloussent derrière systématiquement avec Julie. Je retrouve, moi, cette ambiance extraordinaire le matin.
Ouais. On termine avec un must, et toujours l'incontournable Pierre Péchin, qu'on salue très tendrement et très fraternellement, à qui on souhaite plein de bonnes choses. Il imite bien les voix, Pierre, le fameux canular téléphonique du saucisson Mireille, que du bonheur.
Alors, les saucissons Mireille?
Mais non, c'est pas les saucissons Mireille, monsieur, vous faites erreur. C'est plus le même numéro, les saucissons Mireille.
Ah, et alors, vous pouvez me donner, s'il vous plaît, les numéros des saucissons Mireille?
Mais je peux pas vous donner le numéro des saucissons Mireille, je n'en sais rien. Moi, j'ai pris leur numéro à eux.
Ah, donc vous êtes les saucissons Mireille, alors, si vous avez substitué le numéro?
Mais non!
Comment?
Le numéro des saucissons Mireille a changé.
C'est-à-dire que vous êtes installé, vous avez pris le titulaire des saucissons Mireille?
Voilà, j'ai pris le numéro des saucissons Mireille.
Ah, alors, qu'est-ce que vous faites comme genre de saucisson?
Mais je ne fais pas de saucisson, moi. Ce n'est plus le même commerce.
Ah, c'est-à-dire que vous-même, maintenant, vous avez repris donc ces numéros de téléphone?
Voilà, oui.
Et vous vendez des saucissons Mireille?
Dites-moi, vous le faites exprès ou quoi? Je vous dis que je ne vends pas de saucissons Mireille. Je vous dis que si c'est un magasin de photos, ça a changé. C'est plus le même numéro.
Alors, je voudrais de la galantine, non, des pieds paquets et des tripes de caen.
Je vous dis, monsieur, que ce n'est pas les saucissons Mireille.
Ah, bon, alors je voulais parler à Mireille.
Vous voulez parler à Mireille? Dites-moi, oh.
Qu'est-ce que vous fabriquez, alors?
Hein?
Qu'est-ce que vous fabriquez?
Mais je vous dis que ça n'a rien à voir. Ce n'est plus les saucissons Mireille.
Non, mais c'est marqué dans l'annuaire saucissons Mireille.
Je sais que dans l'annuaire, c'est marqué saucissons Mireille, mais ce n'est plus les saucissons Mireille.
Ah, et comment cela se fait-il, alors?
Mais j'en sais rien, moi.
Et si on s'associait pour faire du salami?
Ouais, ben vous vous trompez de numéro.
Ami du chorizo, merci.
Allô?
Allô, bonjour madame, les saucissons Mireille?
Allô?
Oui, bonjour monsieur, les saucissons Mireille?
Ah, écoutez-moi, vous le faites exprès ou quoi?
Pardon?
Vous le faites exprès ou quoi?
Je vous demande pardon monsieur.
Je vous demande pardon, ça fait trois fois qu'on me téléphone pour les saucissons Mireille.
Ah écoutez, je suis désolé monsieur.
J'ai changé de numéro.
Ah, je suis désolé monsieur, ça n'est pas moi. Ce
n'est pas vous, bon alors, que ce soit pour dire. Hein.
Non, parce que voyez-vous, nous partons en crapahut 48 heures et pour mes hommes de troupe, nous aurions aimé quelques andouillettes, un peu de salami, de l'andouille de vire, un peu de jambon d'Arc, des tas de choses, n'est-ce pas, pour que ces légionnaires ne soient pas en manque de nourriture.
Oui.
D'abord, n'est-ce pas, c'est une dizaine de kilos d'andouillettes.
Oui.
À faire cuire, n'est-ce pas, sur le bleuet.
Oui.
Ensuite, nous prendrons, pour éviter une cuisson, des tripes à la mode de Caen.
Oui.
Ensuite, des pieds paquets.
Oui.
Un peu de chorizo.
Oui.
Environ
et
un quintal.
Et une couille aussi.
Pardon? Les rognons blancs, merci.
Allô?
Oui.
Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes photographe?
Oui.
Oui, bonjour, monsieur. Voilà. Louis Confin, je passe des vacances dans l'île de Beauté. Je suis moi-même photographe amateur.
Oui.
Et j'aurais voulu quelques petits conseils.
Oui, mais je ne donne pas de conseils par téléphone.
Ah bon, parce que j'ai mon Brovni Flash et ça ne donne pas grand-chose.
Vous avez un
Brovni Flash.
Un Brovni Flash, oui.
Je suis retraité, je prends des photos de l'île de Beauté.
Oui.
Est-ce que je pourrais venir vous les montrer et que vous me donniez quelques conseils?
Mais je vous en prie, bien sûr.
Comme ça, après, puis vous, je pourrais photographier la vitrine où c'est qu'il y a les chorizo et puis où c'est qu'il y a les saucissons Mireille.
Voilà. Et puis quoi après?
Oh, et puis les figatelli.
Oui, et puis?
Et puis la galantine.
Oui.
Et puis les c*** du patron.
Voilà.
Hein? Mais justement, j'aimerais que vous veniez me les photographier.
Mais alors, quand vous voulez.
Eh ben, venez, passez, vous savez où je suis.
Oui, alors je viendrai avec ma femme.
Voilà. Hein? Ok.
Voilà.
Et puis?
Et puis, un petit Suisse comme dessert.
Alexandre, c'est toi qui l'as monté ce soir.
Ouais, non seulement je l'ai monté, mais suite à ça, on a fait un disque qui est sorti à l'époque chez Barclay, et il a fallu avoir l'autorisation des saucissons Mireille, et je suis parti en Corse rencontrer ce charmant monsieur qui nous a signé l'autorisation, et je le salue s'il est toujours là. Ça m'a valu un voyage de 24 heures à Ajaccio, où j'ai été reçu par le photographe des saucissons Mireille. C'est un très beau souvenir.
Ah, c'était de la charcuterie corse.
Ouais, Figatelli, et Figatelli. Ça va être le même. Ouais.
Messieurs, il est malheureusement l'heure de se séparer. On aurait pu y passer la matinée. Merci. C'est bon de vous avoir revu. Bonne chance pour la suite. Et à vous tous, enfants d'Europe 1 et tous les autres, nous souhaitons une très, très belle année. Xavier Collin.
Bonne année.
Robert Marcelin.
Bonne année.
Que santé, bonheur.
Voilà.
Bonne année à tous.
Kelly, bonne année à tous. Pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain. Je compte sur vous. En attendant, bon réveillon, bonne semaine, bonne année encore. Et puis, bien évidemment, une super belle radio. Au revoir.